Eh bien, écoutez, pour cette fois, on a choisi de fonctionner de cette manière. Je vais vous proposer une chronologie. Voilà. Alors, mon idée est la suivante. Je sais qu'il y a une partie de vous qui était là à notre première intervention. D'autres, je pense, qui n'étaient pas là. Donc, on va faire la jonction. Mais c'est vrai que l'autre jour, avec Gérard, on a fait un duo que Gérard a lancé. Hein, et on a essayé de philosopher sur l'éducation populaire, d'en voir ses objectifs, ses stratégies aussi, hein, les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et bon, moi, comme je suis historienne, je voudrais là, aujourd'hui, faire un peu différemment, c'est-à-dire vous proposer une histoire possible de l'éducation populaire. Alors, je ne revendique pas du tout que c'est la bonne histoire, ni l'histoire au singulier, car je pense qu'on peut faire plein d'histoires de l'éducation populaire. Hein. Mais ce que je voudrais essayer de faire ce soir avec vous, c'est qu'en vous plongeant dans la chronologie, en nous plongeant tous dans la chronologie, essayer de saisir par période des ambiances, et dans ces atmosphères, ces ambiances, voir s'il y a de l'éducation populaire dans tout ça, et si oui, ben, par quel canal elle passe, par quel chemin elle se situe. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faire percevoir, si je le peux, que même si l'éducation populaire, on l'a vu la première fois, a quand même des permanences, hein, des convictions qui se prolongent d'une période à l'autre, moi, le pari que je fais aujourd'hui, c'est que quand même, sur chaque période, elle joue des rôles assez différents. Et elle s'incarne dans des terrains assez différents. Voilà. Donc, on peut en débattre. Hein. J'ai aucune prétention de fournir un discours tout fait, loin de là. Hein. Alors, voilà comment j'ai pensé qu'on pourrait faire les choses. C'est de fonctionner sur un plan que je vais carrément vous proposer. J'ai même demandé à ce qu'on mette un petit tableau. Je vais annoncer mon plan chronologique. Et après, sur chaque partie, je vais vous dire des choses que je sais ou je vais faire circuler des documents, bien sûr d'une manière courte, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et à chaque fois, à chacune des parties, on ouvrira le débat. Et vous-même, si vous savez des choses ou s'il y a des choses des questions qui vous restent, on en discute, voilà, sur chaque période. Alors, il y a quand même dans tout ça une question qui me taraude beaucoup en ce moment, et peut-être qu'on pourrait déjà commencer un petit peu en introduisant là-dessus, c'est... Est-ce qu'il y a une histoire de l'éducation populaire? Déjà, c'est pas si évident, parce qu'elle n'est pas tellement écrite encore. Et on a l'impression qu'à chaque fois, on a envie de la réécrire, de la refaire. Comme si ceux qui avaient déjà commencé à écrire des petits bouts de cette histoire, ou qui avaient écrit sur l'éducation populaire à certains moments, on voulait l'ignorer, on voulait nous-mêmes toujours refaire notre propre chemin. Donc ça m'interroge beaucoup, en plus, puisque je suis un peu historienne sur ce champ-là, c'est vraiment la question de l'appropriation. Est-ce que l'histoire de l'éducation populaire est appropriable? Est-ce qu'on a envie de se l'approprier? Ou est-ce que ce n'est pas toujours une aventure qu'il faut recommencer, qui serait donc dans un présent, qui quand même aurait une conscience d'une certaine archéologie, quand même, vous voyez, je veux dire, on sait bien que les gens qui aujourd'hui font de l'éducation populaire savent qu'il y en a eu avant, mais préfèrent agir sur l'instant et n'ont pas tellement envie de connaître si ça a pu se faire avant. Alors, c'est un petit peu provocateur, hein, mais bon, j'ai peut-être une petite réflexion à faire là-dessus. Gérard.
Tout à fait, oui. C'est une des caractéristiques de notre secteur que de ne pas avoir d'écrit, ou très très peu. Et c'est vrai que d'une certaine façon, devenir acteur de l'éducation populaire, c'est plus le résultat d'un engagement que d'un apprentissage. Je ne veux pas forcément distancier les deux, mais c'est vrai qu'on devient acteur de l'éducation populaire parce que, à un moment ou à un autre, on a pris conscience qu'il y avait une espèce de but, une espèce d'objectif qu'il était nécessaire d'atteindre. Et ce faisant, c'est qu'après qu'on se dit, mais en fait, d'où ça vient tout ça? Donc, on n'apprend pas méthodiquement l'éducation populaire. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'apprend. Je crois surtout qu'on la découvre et qu'on se découvre soi en train de faire de l'éducation populaire. Et premier point. Et deuxième point, c'est vrai que l'idée d'histoire ne vient qu'après. D'où je viens, est-ce qu'il y en a qui faisaient ça, ce que je fais, d'autres le faisaient avant, lesquels, il y a combien de temps, d'où ça vient. Tout ça, c'est des notions qui sont intéressantes, certes, mais qui ne sont pas déterminantes pour le fait que moi, j'agis, je fais de l'éducation populaire. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. À titre personnel, je me la suis posée que lorsque j'ai commencé à entrer en formation d'animateur. Auparavant, c'est une question qui ne m'intéressait pas, qui ne me concernait pas en tant que bénévole de l'éduc-pop.
Alors, évidemment, moi, mon pari, ce serait finalement, alors évidemment, pour ce soir un tout petit peu, mais peut-être vous donner des idées, j'espère, ce serait de dire, chacun peut faire ce chemin hein, à travers l'histoire, et donc, si on a des archives, eh bien, on pourrait s'y essayer tous. C'est-à-dire qu'on pourrait, en fait, faire une recherche collective sur les histoires d'éducation populaire en pratiquant nous-mêmes de l'éducation populaire. Hein, parce que ce serait une façon d'acquérir ces connaissances, mais pas comme ça, qui arriverait je ne sais où, mais parce qu'on regarderait ensemble des archives et on essaierait de sentir, là, ce qui fait cette démarche particulière. Alors, je commence par là parce que je risque d'oublier tout à l'heure. Je crois que j'en avais touché un mot la dernière fois, mais je vais vous faire passer un petit papier, une petite tract qui est tout récent, là. Parce qu'on a fondé, il y a une dizaine d'années, hein, c'était en 99, un centre d'archives qui s'appelle le PAGEP. Ça veut dire Pôle de conservation des archives, le A, c'est archives, de la jeunesse et éducation populaire. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est que donc on a déterminé un champ de recherche, hein, mais aussi un secteur où des archives avaient jusqu'alors été très peu versées. Voilà. Et on a essayé de sensibiliser les associations qui jusqu'alors, comme toutes les, vous savez, tous les endroits, on a des archives, ça encombre. Donc on les met dans une armoire, souvent à la cave ou au grenier. En général, là, il y a toujours un tuyau qui fuit à un moment donné. Et donc, régulièrement, les archives qui sont quand même un patrimoine, hein, non récupérable si c'était abîmé, eh bien les archives se mouillent et puis quelquefois deviennent illisibles. Donc on était très soucieux à quelques-uns, là, une petite équipe, hein, des historiens, des archivistes, des acteurs hein, de l'éducation populaire du terrain, de dire il faudrait fonder quelque chose où on puisse mettre ces archives quelque part, les protéger, les classer, parce que des archives qui ne sont pas classées, si vous avez un monceau de trucs, on ne s'y repère pas. Hein. Donc il faut, là il y a des archivistes qui connaissent ce boulot, c'est-à-dire on fait des cartons, qu'on numérote, dedans on sait ce qu'il y a, et puis après on les met en communication, on enlève les doubles, bon voilà, et on ne reclasse pas trop, hein, parce qu'en termes d'archives, on essaie de rester assez fidèle à, si vous avez une secrétaire qui avait son tiroir, on essaie quasiment de reprendre le tiroir et de le mettre dans les cartons. Hein, c'est pas de la documentation, les archives. Donc, c'est pas tellement thématique. Ça reste très, très chronologique. Hein, voilà. Et ça a fort bien marché. On a eu du mal. Hein. Tu te souviens, tu as entendu parler, hein, d'instaurer l'idée. Mais maintenant, on est reconnu par les archives de France. Hein, et le centre d'archives se trouve à Créteil, aux archives départementales de Créteil. Mais c'est pas seulement les archives de 94, c'est les archives d'intérêt national de toute la France. Et on a aussi, bien sûr, provoqué des versements dans différents lieux d'archives, là où il y en avait. Hein, par exemple, des initiatives qui étaient dans un département, on a essayé de faire que ce soit versé au département, pour les laisser là où elles avaient été produites. Voilà. Et donc, je vous le dis tout de suite, ces archives, vous pouvez y aller. Le patrimoine, c'est démocratique, ça j'y tiens beaucoup. Hein, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller dans un centre d'archives. Il n'y a pas besoin de faire la preuve qu'on sait les étudier ou d'avoir des diplômes ou je ne sais quoi. Toute personne, citoyen, peut aller consulter des archives. Hein, vous remplissez une petite fiche et tout va bien. On vous donne les cartons que vous souhaitez avoir à partir d'un inventaire qui est à disposition. Voilà. Donc je vous convie à ça parce que on a à peu près actuellement, alors c'est par les associations hein, qui ont versé, à peu près 1,5 km d'archives. Alors on mesure ça, vous savez, imaginez une étagère, on mesure en mètres linéaires comme ça. Hein, donc ça explique que ça fait beaucoup. Et on a maintenant, je vais faire passer le petit papier, vous verrez un certain nombre d'associations qui ont versé et d'autres qui continuent à le faire. Donc ça marche assez fort. On est, je dirais, assez fiers. Il y a tellement d'archives que même moi, je pense que je n'aurai pas le temps de les étudier. Donc c'est pour les générations à venir. Donc je suis assez optimiste parce que je me dis que cette éducation populaire qu'on a tellement de mal à cerner, les archives, ça nous donne des pratiques. Hein, ça nous donne les archives, contrairement à ce qu'on croit, c'est du quotidien, c'est du concret, c'est du matériel. Hein, on voit comment on fait une réunion, on voit dans les stages les programmes qu'il y avait, qui on invitait, combien de temps ça durait, s'il y avait des frictions. Enfin, les archives, ça dit beaucoup de choses. Mais il faut en garder beaucoup pour ça. Il ne faut pas se contenter du bon texte théorique qui résumerait tout. Non, ce n'est pas la synthèse des archives, c'est vraiment, il faut tout déployer, quoi. Il faut aimer ça. Mais vraiment, ça donne beaucoup de choses.
Je vais peut-être ajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est que, parce que ça me paraît être finalement à la fois au cœur de la démarche d'archives et puis aussi au cœur de l'éducation populaire. C'est que on a toujours beaucoup de mal à comprendre ou accepter à la fois de vivre dans le quotidien, le réel, le concret, et puis de donner un peu d'importance à ce qu'on a pu écrire, ou ce qui a pu être écrit, ou ce qui a pu se passer précédemment. Je m'explique. Tu viens de dire une chose qui est importante, c'est que il n'y a pas que la synthèse qui importe. Les archives, ce n'est pas la synthèse, c'est le quotidien, c'est les notes prises, c'est les cahiers sur lesquels le post-it, etc. Pourquoi est-ce que ça nous choque ? Je ne dis pas pourquoi est-ce que c'est important, je pense que c'est important. Mais pourquoi est-ce que ça nous semble pas évident ? Pourquoi est-ce que l'idée nous choque ? Simplement que tout se passe comme si, peut-être, on souhaitait offrir un produit fini. C'est-à-dire que toute la démarche qui permet d'arriver à quelque chose de construit, quelque chose de, entre guillemets, définitif, d'abouti, tout ça, c'était comme si ça n'était finalement pas important. Or, en fait, dans l'éducation populaire, on comprend que, quand on la vit, quand on, comme vous, en êtes des militants, on comprend que c'est comment. Enfin, ce qui est important, c'est ce qui permet de construire une pensée commune, ce qui permet de construire une décision commune. En gros, c'est un peu la culture du conflit. Si on se met à mettre en archive les désaccords entre des gens qui se sont réunis pour bâtir un résultat, ça nous paraît moins intéressant de parler de la façon dont on arrive au résultat. Parce que c'est toujours cafouilleux, parce que c'est toujours des désaccords, parce que machin n'est pas d'accord avec machin ou avec machine, et que c'est ennuyeux, alors que finalement, un résultat bien léché, la décision est prise, il y en a tant contre, tant pour, tant d'abstention, ça, c'est clair, c'est objectif, c'est bien. Peut-être que c'est bien, mais peut-être que c'est pas la vie, ça. Et dans la mesure où on s'intéresse à ce qui permet d'animer, à ce qui permet de faire vivre une idée, un projet, un groupe, eh bien, la façon dont cette idée, ce groupe, se sont mis en œuvre pour bâtir quelque chose ensemble est sûrement plus important que le résultat. La dernière fois, je vous avais dit, quand on fait un atelier théâtre, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est l'atelier lui-même ? Ce qu'on fait dans l'atelier pendant une année, est-ce que c'est ça qui est important ou est-ce que c'est le résultat ? Et c'était peut-être surprenant, mais moi, je pense vraiment que ce n'est pas tellement le résultat. Et j'avais ajouté que si le résultat est beau, c'est pas plus mal, évidemment. Mais la démarche de construction du résultat est plus importante que le résultat lui-même.
Mais oui, je suis d'accord. Alors, voilà, 6 parties, 6 périodes. Alors, comment je définis une période ? Je prends pas comme ça les périodes politiques, quoique, bien sûr. C'est pas complètement extérieur, loin de là. Mais je veux dire, j'essaie de prendre le sujet et de voir à quel moment ça change. Vous voyez, d'essayer de définir des dates charnières. Une date charnière pour moi, c'est une date où avant c'était comme ça et après c'est plus comme ça. C'est aussi simple que ça, hein, mais c'est le moment où dans notre sujet on sent un changement. Voilà. Donc une fois que les dates sont là, évidemment, ça crée de fait. Hein, c'est des intervalles, ça crée de fait des périodes. Et quand on a une période, on essaie de la comprendre. Hein. Voilà, c'est une méthode qu'utilisent beaucoup les historiens. Mais je tiens à dire que, tout à l'heure, on se disait, est-ce qu'on va isoler la 5e République ? Moi, je disais, peut-être pas. On va peut-être prendre quatrième, cinquième, mais on va voir le rôle de l'État. Voilà. Vous voyez, en nommant les périodes, on prend aussi ce qui nous paraît le plus important. Hein, vous voyez, ce qu'on appelle une problématique, quoi, quand on fait des recherches. Hein, voilà. Alors, six périodes, voilà, c'est une proposition. Hein, je comprendrais tout à fait que vous ne soyez pas d'accord. Hein. Alors, la première période, donc, je vais rester relativement flou sur les dates parce que on ne peut pas fixer plus précisément, je dirais fin 19e, début 20e siècle. Voilà. Et pour résumer, alors là, pareil, je vais vous prendre des flashs. Hein, je vais pas avoir la prétention de bâtir. Hein, ça serait un livre qu'il faudrait faire. Bon. Alors, mon flash là-dessus se situe, une chose que j'avais un petit peu évoquée la dernière fois, autour d'un équipement particulier qu'on appelle les universités populaires, dont on reparle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir. Hein. Ça redevient un petit peu à la mode. Notamment, il y en a un qui est philosophe, Michel Onfray, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est très drôle parce que quand il a fait, vous savez que c'est un philosophe qui est à Caen, et qui était dans l'éducation nationale, qui a quitté et qui maintenant fait, je crois que tous les mardis, il me semble, hein, comme vous d'ailleurs, mardi je crois, hein, une conférence où il y a beaucoup de monde, hein, sur des thèmes philosophiques qu'il choisit. Et je sais quand il a démarré, parce que j'ai été une fois en dialogue avec lui, il ne nommait pas ça, il disait c'est des conférences. Et puis des gens lui ont dit, mais ça ressemble beaucoup ce que vous faites à une université populaire. Alors depuis, il est devenu un peu le chantre de l'éducation, de l'université populaire. Et bien sûr, il a retravaillé ça. Mais je veux dire que ce n'est pas à ce point connu, mais on sent que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, connaît un regain d'intérêt. Hein. Alors, je vais garder une phrase que je vais redévelopper tout à l'heure, hein, que j'avais aussi un petit peu dit l'autre jour. Qu'est-ce que c'est une université populaire comme on l'a défini à l'époque, on avait dit, c'est vraiment là un petit résumé, hein, mais c'est une association d'égaux volontaires. Voilà, c'est quelque chose moi, que j'ai retenu. Bon, j'aurais pu retenir d'autres choses, mais c'est mon choix, je l'assume. Voilà, on s'en expliquera tout à l'heure, mais ça, pour moi, ça donne une vision de ce qu'on appellera à plus tard l'éducation populaire. Parce que, bien sûr, le mot apparaît pas comme ça tout de suite, mais on sent que là, il y a un objectif nouveau, particulier. Après, je vous propose une deuxième période, hein, je vais vous les nommer les unes comme ça après les autres, c'est l'entre-deux-guerres. Alors l'entre-deux-guerres, là je dirais que je me mets dans des chronologies bien classiques, mais comment ne pas constituer, enfin penser que ça fait une période, c'est évident, qu'après le traumatisme de la guerre 14-18, hein, où on croyait être à tout prix débarrassé des Allemands et qu'on allait vers une période de paix, dès les années 22-23, regardez des journaux, pourquoi pas, je pensais à un journal qui était pourtant pas très révolutionnaire, l'Illustration. Vous avez peut-être trouvé ça dans les greniers de vos grands-parents. Ou, non, hein, vous voyez ce que c'était. C'était une grande revue, pas très épaisse, assez chic, hein, vous voyez, grand format, hein, très glacé, avec des belles photos. Hein, et bien moi, j'ai trouvé dans l'Illustration, dès 1923-24, il y avait une reportage sur des enfants qui dessinaient la guerre, et on disait, mais la guerre risque de recommencer. Hein, donc, vous voyez, après, c'est vraiment l'hécatombe, hein, l'hécatombe de la première guerre, on est déjà, au milieu des années 20, déjà, dans une crainte que tout ça ne soit pas terminé, et qu'il faille y retourner, quoi. Hein, donc, l'entre-deux-guerres, je pense, à ce niveau-là, mais bien sûr, on a appelé ça que après la deuxième guerre, hein, sinon, on n'en avait quand même pas conscience. C'est vraiment une période très mal étudiée par les historiens, mais très riche en termes d'initiatives sociales, éducatives. Il y a vraiment là un travail merveilleux à faire là-dessus. Alors, l'entre-deux-guerres, je résumerai la chose en disant le démarchage de la jeunesse. Alors, je fais apparaître très consciemment le mot jeunesse. Bien sûr, je vais y revenir. Mais je repère que, et c'est pas par hasard que ça tombe juste après la première guerre, il y a une pensée qu'on n'avait pas à la période précédente. On commence à penser en termes de population visée. On dit on pourrait faire des choses qu'on va nommer aussi là, plus ou moins éducation populaire, on va utiliser des méthodes, mais on s'adresse à une catégorie d'âge. Et ça, c'était une pensée nouvelle, une façon de réfléchir qu'on n'avait pas du tout à la période précédente. Et en plus, c'est un moment, j'y reviendrai, où beaucoup de mouvements de jeunesse, de toutes sortes, se sont créés entre les années 20 et les années 30. Il y en avait eu un tout petit peu avant, mais là, vraiment, c'est une floraison, je dirais même carrément une surenchère. Tout le monde rêve d'attirer à soi la jeunesse et de faire que la jeunesse adhère à tel ou tel mouvement et milite, hein, ou se batte pour un objectif commun. Voilà. Donc, je dirais que l'éducation populaire vient, d'une certaine façon, s'infiltrer là-dedans. Hein, voilà. Alors, c'est donc la deuxième période. La troisième période, eh bien, ça ne vous étonnera pas, c'est la deuxième guerre. Et là, je la prends comme telle, donc je veux dire au sens, bien sûr, 39-45, hein, pas seulement 39-40, bien sûr. Hein. C'est une période, vous savez, où il y a eu des choses très différentes, hein, on y reviendra, mais il y a un souci assez étonnant, parce qu'on n'avait pas que ça à faire, bon sang, c'était la guerre. Et on va être obsédé, je fais circuler là une brochure qui était un colloque que nous avons organisé assez récemment, là, hein. les cadres de jeunesse d'éducation populaire. Hein, je voulais juste vous le montrer comme ça, voilà. Et dans ce colloque qu'on avait aussi fait par période, on a été très surpris de voir combien la deuxième guerre a produit des besoins de formation des cadres. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, des cadres. Et il y a plein de stages qui s'organisent, à thème, où on apprend à des stagiaires à devenir des citoyens responsables, mais aussi à former les plus jeunes. Vous voyez, il y a toute une démarche de formation où les plus vieux forment les plus jeunes. Et on utilise là des méthodes et on se revendique, entre autres, hein, de l'éducation populaire. Et ce qui m'apparaît comme mot-clé dans cette période, eh bien, je dirais que c'est ce que je nommerais une élite, ce que j'avais dit l'autre jour, une élite de mérite. Hein. Alors, la phrase clé pour moi, c'est ça. Une élite de mérite et non pas de naissance. Et ça, c'est une philosophie, hein, qui va vraiment parcourir toute cette période-là. Voilà. Donc, c'est la troisième partie. Hein. Okay. Après, j'ai une quatrième partie où là, je fais une place toute particulière à la période que je vais appeler la libération. Hein, et puis, juste qui suit, les quelques années qui suivent la libération. Alors, vous savez, il y a un moment très particulier en France, on y reviendra, le tripartisme. Hein, il y a trois partis qui gouvernent, qui n'avaient jamais gouverné avant ensemble, de 1944 à 1947. La SFIO, socialiste, le PCF, comme on disait à l'époque, hein, le Parti communiste français, et un parti centriste qu'on va appeler les catholiques sociaux, qui s'appelle le MRP, le Mouvement républicain de progrès. Et pendant 3 ans, ces trois partis gouvernent.
Populaire.
Exact. Et ces trois partis, étonnamment, hein, vont être les uns à côté des autres, et moi je dirais former une espèce de laboratoire de réflexion, et là-dedans, l'éducation populaire va avoir une assez grande place. Hein, donc je pense que c'est une période en soi. Et bon, comment la nommer? Moi je dirais le fol espoir. Voilà, je dirais ça comme ça. Le fol espoir dans un certain unanimisme de la libération. Donc c'est une période très, très forte, hein, en termes d'utopie. Mais à l'époque, on pense que peut-être on va y arriver. On voudrait inonder la France d'une pensée éducation populaire. Il y a même à un moment donné, on va penser faire une loi sur l'éducation populaire, qui ne verra pas le jour, mais qu'on a beaucoup préparée. Voilà. Alors voilà, ça c'est la quatrième période. Et la cinquième période, eh bien là je dirais qu'on est dans une certaine victoire quand même, car l'éducation populaire qui jusqu'alors était faite d'initiatives diverses, où les uns et les autres pouvaient se reconnaître, là va rentrer un acteur nouveau sur la scène, l'État. Et l'État va commencer à, comment dire, proposer des choses à tous ces militants d'éducation populaire, à les reconnaître, d'une certaine façon, à les institutionnaliser. Et on va voir apparaître un secteur, alors moi je dirais l'apparition, hein, du secteur JEP. Alors JEP, Jeunesse, Éducation Populaire, bon, on y reviendra aussi, mais on a à ce moment-là beaucoup de structures qui se mettent en place, un peu intermédiaires, moi je dirais semi-public, semi-privé, avec un système de subventions pour certaines associations de postes mises à disposition. En tout cas, quelques moyens qui sont donnés et qui vont faire qu'il va y avoir des proximités entre ces initiatives qui étaient comme ça, peut-être un peu isolés, des associations qui vont avoir pignon sur rue, et des ministères qui, tout doucement, vont devenir des ministères, on pourrait dire, de tutelle. Et donc, voilà, va se créer un secteur au sens politique publique, voyez, au sens ministériel. Voilà. Donc, je dirais, là, l'apparition de l'État. Et puis, il me semble que il faudrait parler d'une dernière période, mais je pense que, vu le temps qu'on a, on n'arrivera sûrement pas au bout, mais je veux la signaler dès maintenant. C'est l'éducation populaire face à un pays en crise. Et ça, pour moi, c'est une notion très importante. On l'avait un petit peu évoqué l'autre jour. Hein, c'est-à-dire que la crise économique, hein, qui, vous savez, on appelait ça le choc pétrolier en 1974, dont on pensait qu'on allait se débarrasser assez vite. On n'avait pas pensé que ça allait durer, puisqu'on peut dire qu'on n'en est toujours pas sorti. Et ma question, c'est, tous ces milieux d'éducation populaire sont confrontés directement, bien sûr, à la crise, puisque l'éducation populaire, c'était entre autres la promotion sociale, individuelle et collective. C'est aussi une possibilité d'ascension sociale. Mais quand il y a crise, il n'y a plus possibilité d'ascension sociale. Donc ma question là, donc vous voyez, je ferai démarrer ça à partir des années 75. Alors jusqu'à quand? Ben, je ne mets pas de fin. C'est l'éducation populaire était-elle capable d'être en prise là-dessus et d'avoir un rôle? Hein? Voilà, pour moi ça reste une grande interrogation qui à mon avis, nous motive encore. Voilà. Alors déjà peut-être si vous... cette chronologie, ben, oui.
Comment moi, j'ai l'éternelle interrogation qu'on avait déjà pointée la dernière fois, c'est que moi je suis quand même très attaché à et d'ailleurs toi aussi, puisque tu m'as importé un remarquable petit livre.
Parce qu'on s'est disputé l'autre jour sur Condorcet. Alors j'ai été acheter ça, je vais le faire passer.
C'est que
le premier mémoire sur l'instruction publique.
Tiens, voilà. C'est que j'avais fait remonter l'idée, la première idée d'éducation du peuple, pas par le peuple, mais la nécessité de prendre en compte le fait de rendre la raison populaire, qui est contenue dans le rapport général sur l'instruction publique de Condorcet, publié en 1792, peu d'années avant sa disparition. Et donc, première interrogation, tu ne l'as pas retenu, ce n'est pas bien. Néanmoins...
Et le petit livre est là.
Hein, le petit livre est là, tout
à fait. Il ne coûte pas cher, hein, vous pouvez l'acheter. Il est quand même très intéressant. Il faut reconnaître qu'il y avait là une pensée, 2,50 €.
Aux éditions des 1001 Nuits. Ouais. Tout un programme.
Ça se met dans la poche, c'est très pratique.
Donc, c'est un élément que je voulais pointer. Je crois que si on définit l'éducation populaire par ses actes, il est vrai que ta chronologie est fondée. Mm. Si on essaie de chercher dans l'histoire à la fois des idées, pourquoi les idées naissent, dans quelles conditions, quels rapports de force permettent qu'elles naissent, alors peut-être faut-il remonter un tout petit peu plus loin.
La Révolution française.
Voilà.
Mais ce que je disais à l'instant, Gérard, c'est on voit qu'effectivement, il y a une pensée dans ce texte que l'éducation populaire va se réapproprier. Ça me paraît assez évident. Mais je disais, il y a 100 ans entre les deux, quoi. Hein, parce que Condorcet était un petit peu isolé, quand même, dans sa position. Il a eu des fonctions pendant la Révolution qui lui ont permis d'exprimer ce projet qui tournait autour de quand même l'instruction publique dans un sens élargi, dans l'idée de former les générations. Et de rendre la raison populaire, c'est la phrase est dedans. Mais c'est vrai qu'en pratique, ça en est resté là, et c'est seulement à peu près 100 ans après que là, on commence à voir s'appliquer des choses que moi, en tout cas, j'attribue aux origines de l'éducation populaire.
Hein. C'est dans cette période-là aussi qu'Auguste Lecomte intervient en faisant le mouvement des écoles, comme ça, l'éducation populaire.
Donc, on peut dire qu'il y a des expériences qui se mènent. Moi, ça, je ne conteste pas. Hein. Simplement, j'ai le sentiment que ça reste des choses relativement isolées en termes d'école. Parce que si j'ai pas pris l'éducation nouvelle, la pédagogie nouvelle, ce serait une autre façon de voir les choses. Hein. Mais là, évidemment, il faudrait remonter bien plus haut, bien plus en avant. Hein. Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté à savoir à partir de quand on fait partir les choses, quoi. Mais je crois qu'on ne le résoudra pas ce soir. Mais je dirais que si déjà on est un peu d'accord là-dessus, ça n'empêche pas d'extrapoler en avant ou en arrière, ou sur les côtés. Parce que c'est très difficile d'isoler. Dites, oui, allez-y.
Moi, je suis frappé par la deuxième partie, entre deux guerres, le démarchage de la jeunesse.
je ne peux pas m'empêcher de penser que, entre les deux guerres, les hommes qui étaient nés les 20 ans 1914, donc en 1994, étaient morts à 25% dans le combat de la guerre.
Ils étaient presque tous morts.
Donc, il y avait un effondrement, je dis 1900, donc 1994, donc quelques années avant, quelques années après, ils ont trinqué à, je dirais,
20%
pour les morts, pour les blessés. Et donc, il y avait un effondrement démographique
complètement
des hommes jeunes, des jeunes adultes, lorsqu'on était là. Il faut savoir aussi que sur le plan démographique, hormis l'année 1920, qui était celle de la suppression de l'avortement, où il y a eu 700 000 naissances, ensuite la natalité s'est effondrée, au point qu'en 1934, il y avait, à partir de 1934, il y a eu moins de naissances que de décès en France, jusqu'en 1941.
On est dans une baisse démographique.
On est dans une baisse démographique, et donc un effondrement des jeunes. Donc,
d'où l'importance
numériquement. Et donc, il y en a de moins en moins, enfin, il y en a peu, on attend que la génération d'après arrive, et c'est à eux, c'est eux qu'on va démarcher.
C'est sur eux qu'on compte.
Et puis, ça correspond aussi à l'existence de partis politiques que je ne confonds absolument pas, hein, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui eux aussi qui ont des sections de jeunesse, ce que n'avaient pas les partis qui existaient avant, partis radicaux, les sections de jeunesse, j'imagine pas. Bon, les partis, en particulier, bon, même la SFIO, mais parti communiste, et plus tard, hélas, l'extrême droite, ont aussi des formations jeunes.
Voilà.
Donc tout le monde va travailler en direction des jeunes. Et c'est ce qu'on retrouve dans la partie 3, parce que quand on parle des formations des cadres, ça me fait penser à l'école des cadres d'Uriage, qui a été montée par le gouvernement de Pétain, et qui a servi d'ailleurs de foyer de construction de résistance, contrairement à ce que voulaient ses auteurs. Un certain nombre de résistants ont été issus de l'école d'Uriage. Bon. Mais donc, il y avait peu de jeunes, et on s'en est occupé. J'ajoute, et je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps, que c'est quand même pendant cette période d'entre-deux-guerres qu'il y a eu deux modifications importantes sur le plan d'éducation nationale, qui s'appelait encore instruction publique. Une, c'est, je pense, pendant un gouvernement Édouard Herriot, la gratuité, l'entrée progressive de la gratuité dans l'enseignement secondaire. Je sais que mon père a dû rentrer en 6e vers 1922 ou 3, et que progressivement, alors je ne sais plus si c'était un an avant après lui, ou après lui, progressivement, à ce moment-là, donc gouvernement Édouard Herriot en 1924, cartel des gauches, que l'enseignement secondaire est devenu gratuit. Car avant, il fallait payer pour y aller. Contrairement à l'éducation primaire qui était gratuite depuis Jules Ferry. On l'a vu l'autre jour. Donc c'est assez... et en 1936, ne l'oublions pas, le passage à 14 ans, la scolarité obligatoire. On aura ensuite avec De Gaulle 16 ans, 59 ou 60, mais on est dans une autre période. Donc on s'est beaucoup intéressé à la jeunesse à un moment où il y en avait peu.
Mais elle était rare, donc on compensait qu'on s'y intéresse, parce que finalement on avait besoin qu'elle soit solide et qu'elle assure d'une certaine façon aussi la transmission des générations. Donc la jeunesse prend beaucoup d'importance, devient une valeur sociale, je dirais, presque une morale, au sens large du terme.
Et on reviendra un peu à 14 ans dans les années qui viennent de s'écouler, pour certaines parties de la jeunesse. Oui, ça c'est vrai, mais bon, tant mieux.
Et
alors, on démarre, vous êtes d'accord que je vous donne un petit peu l'ambiance de la première période?
Allez,
on y va. Alors, on va brosser un peu le tableau, mais je dirais que dans cette fin mi-19e siècle, jusqu'à la fin 19e, c'est un moment de forte création. Je vais juste vous donner quelques dates que vous retrouverez dans un document là que j'ai apporté. Comme ça, je vais juste vous lire les dates. Voilà. 1852, naissance de l'Union chrétienne de jeunes gens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement. C'est, on peut dire, un des tout premiers mouvements. Et alors, ces jeunes gens, et puis il y avait aussi UCJF, mouvement Union chrétienne de jeunes filles. 1852, c'est le plus ancien mouvement dit de jeunesse, à l'époque on a trouvé. C'est chrétien, en fait c'est des protestants, voilà. C'est des protestants et c'est pas complètement un mouvement français dans le sens où il y a déjà une branche, et peut-être vous connaissez ce sigle, YMCA, qu'on retrouve encore beaucoup aux États-Unis, ils ont des foyers. À New York, quand on débarque, il y a le YMCA.
Rien à voir avec un groupe célèbre.
Non, rien à voir, mais peut-être, j'ai toujours pensé que le groupe peut-être connaissait, parce que beaucoup de gens ont logé au YMCA. Bon, alors ça, c'était un mouvement, international, et il y a une branche française, donc, qui s'est mise en place à ce moment-là, donc avec des protestants. Et pour indication, ils ont monté un foyer, d'ailleurs, qui n'était pas loin d'université populaire avant l'heure, je dirais, comme quoi, vous voyez, les chronologies, c'est toujours difficile, rue de Trévise, dans le 9e arrondissement, qui ça existe toujours. C'était un équipement en pleine, dans un quartier où il y avait déjà une piscine, des salles de réunion, hein, des diverses activités sportives, intellectuelles, des cours, etc. Voilà. On vient juste de récupérer dans notre centre d'archives les premières archives de l'UCJJ. Donc on est, il n'y en a pas beaucoup, mais on est quand même très très contents. Voilà. Hein, donc, intéressant de savoir ça. Ensuite.
Il y avait jusqu'à passé récent un centre de l'UFCJJ à Melun, à La Rochette. Centre important.
Ah bon, ouais. Ça, tu vois, je
qui était géré par le UCJJ.
Bon, je continue comme ça pour donner un aperçu. 1864, première internationale. Hein, donc là, on est sur le champ politique. 1866, fondation de la Ligue de l'enseignement. Donc là, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que l'instituteur est on l'appelait aussi l'éducateur populaire. Hein, donc il va l'instituteur surtout de campagne d'ailleurs, hein, parce que la Ligue de l'enseignement à l'époque est très implantée dans la campagne. Et donc on va donner un rôle tout particulier à l'instituteur qui va contribuer d'une certaine façon à forger cette façon d'être à côté de l'école et en dehors de l'école, parce qu'il prend sur ses heures en dehors de l'école pour aller d'une... On expliquait d'une salle à l'autre. Hein, si vous voulez, je peux vous lire un petit texte qui est sympathique là-dessus, parce que, voilà, l'apostolat de l'instituteur. Hein. Alors, c'est un texte de 1894, donc un petit peu plus tard, mais que j'ai trouvé dans les archives de la Ligue. Je vous en donne quelques extraits. Le rôle de l'instituteur. La Ligue aidera à la formation méthodique de patronage et de sociétés protectrices laïques. Elle a le dessein, là où des sociétés n'existaient pas, de fonder des associations d'éducation populaire, le mot y est, dans chaque canton. Elle tâchera de réunir, en un faisceau solide, dans chaque centre de quelque importance, des bonnes volontés, ne marchandant ni leur temps, ni leur dévouement. Elle leur assignera, comme rôle, de rassembler les ressources nécessaires pour se procurer des moyens d'action, consistant en une bibliothèque circulante, une collection scientifique facilement transportable, sous le bras, y compris un appareil de projection avec vue. Hein, ça, c'était très important. Le local sera aisément trouvé, la salle d'école en bas, la salle de la mairie sera offerte à peu près partout aux organisateurs. Les conférenciers s'offriront aussi d'eux-mêmes. Ce seront les hommes instruits de la localité, qui ne refuseront pas de faire soit une conférence, soit une causerie sur des sujets qui leur seront familiers. Ce sera l'instituteur, dont le zèle n'est pas douteux, et qui, dans son école ou dans l'école d'une commune voisine, continuera sa mission et son apostolat. Le mot apostolat y est. On est à la Ligue. Hein. Ce seront aussi les professeurs des facultés, des lycées et des collèges, des écoles primaires supérieures, les professeurs spéciaux d'agriculture, d'industrie ou de commerce, etc. Ah, on a déjà un projet. Hein. Alors, 1894, donc évidemment, il faut le temps que le mouvement s'implante un peu. Il n'y a pas que des instituts dans la Ligue, d'ailleurs. Hein, mais il y a cette volonté, quand même, de... Hein, vous voyez, je ne veux pas dire mieux que l'archive. Hein, le côté cinéma a été très important. Hein. Bien sûr, quand on passait un film, ou des vues, à l'époque, c'était toujours en les commentant et en faisant un débat après. Hein, donc on était là déjà dans un collectif, hein, un collectif qui recevait le film. Voilà. Alors je dis que la Ligue, vous voyez, elle revendique, hein, ce rôle. Alors, bon, je passe parce que je vais pas aussi quand même citer les lois Ferry, hein, dans ma chronologie, évidemment, hein, 1881, hein, 80-82, hein, donc loi qui, vous l'avez dit, qui rend l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Hein, donc évidemment, c'est une mesure tout à fait importante, sachant qu'à l'époque, tous les enfants ne vont pas à l'école. Hein. On aura beaucoup de mal, vous savez, hein, sur la fréquentation scolaire. Hein, c'est à peu près 20 ou 30 ans plus tard qu'il y aura des inspecteurs et puis des... Je ne sais plus comment on les appelait, mais des personnages spécialement chargés d'aller chercher les enfants dans les quartiers, dans les familles, et de les obliger à la fréquentation scolaire. Hein, mais il y aura quand même beaucoup d'absentéisme au début. Hein, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la Ligue de l'enseignement, on a le pendant tout de suite, parce qu'on est dans un débat, vous savez bien comment sont passées les lois Ferry, laïque confessionnel très chaud à ce moment-là. Et donc 20 ans plus tard, comme par hasard, tout juste 20 ans, on a la CJF, Association catholique de la jeunesse française. Donc là, c'est un groupement alors où les aumôniers sont très actifs, hein, et qui va faire pendant un peu, hein, forcément, au côté laïque de la Ligue, mais où ces aumôniers vont être amenés à faire des enquêtes, des débats, ce qu'on va appeler, je vais revenir tout à l'heure, des cercles d'études, enfin où ils vont commencer aussi à utiliser des méthodes et aller dans différents milieux. Pour votre gouverne, c'est au sein de la CJF, mais plus tard, dans les années 20, qu'on retrouvera, vous devez connaître peut-être, la JOC, hein, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, en fait, chrétienne, c'est catholique, hein. Alors là, c'est pour les garçons, et puis toujours en parallèle, un an après, les filles, JOCF. Et puis on aura la JAC, jeunesse agricole chrétienne, la JEC, jeunesse étudiante chrétienne, etc. Hein, donc ces mouvements qu'on appellera des mouvements de milieu seront en fait partie de la CJF. Voilà. Donc on est dans, on peut appeler ça un catholicisme d'action, hein, qui est très implanté aussi à ce moment-là. Voilà. Alors, ce qui caractérise aussi, il me semble, la fin 19e siècle, et dont on a reparlé récemment, l'affaire Dreyfus. Hein? L'affaire Dreyfus qui commence en 1894, hein, vous avez vu qu'on a fêté là, hein, tout récemment, le procès et puis la réhabilitation de Dreyfus. Ça, vous le savez, beaucoup passionné la France. Hein? Il y avait deux camps vraiment, hein, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et je dirais que c'est une époque, donc, c'est hein, les années 1890, où ça discute beaucoup, hein, parmi les électeurs, parmi les citoyens. On pourrait interpréter, ma collègue, que tu n'as mis, hein, Geneviève Poujol, qui est une des premières sociologues, qui s'est lancée dans l'histoire, hein, bien avant nous, avait fait cette hypothèse que peut-être les universités populaires, hein, dont je vais maintenant vous parler, étaient d'une certaine façon une réponse à ça, dans une idée de cadrer un débat, des débats citoyens, des débats politiques, où chacun apprendrait à s'écouter. Hein, y avait une idée comme ça. Et c'est vrai que les universités populaires vont se développer exactement dans ces années-là, cette décennie-là, 1890, ça démarre. Voilà. Alors vous avez dit un petit peu l'autre jour, hein, de quoi étaient faites des universités populaires. Je vous ai expliqué que c'était plutôt un local, en fait, pas construit pour, hein, récupéré, hein, ou donné, ou légué, ou prêté par la mairie, hein, bon, voilà, dans un quartier, et où on ouvre la porte, et là, il se passe des choses en fonction des libertés des uns et des autres, et des initiatives des uns et des autres. Il n'y a pas de permanent à l'époque, hein, c'est un local dont on a les clés. Voilà. Et alors, dans les toutes premières choses qui se passent dans l'université populaire, on retrouve la bibliothèque. Hein. Alors, la bibliothèque de près, hein, où c'était quand même un peu extraordinaire, parce qu'à l'époque, le livre, dans certaines classes populaires, n'était pas encore un objet fréquent qu'on avait chez soi. Donc, pouvoir emporter un livre, le lire et le rapporter, hein, ça c'est tout à fait important. Et puis la lecture publique, qui revient à la mode aujourd'hui. Hein. Mais la lecture publique, hein, qui était une façon pour ceux qui, peut-être, avaient moins l'occasion de lire, d'avoir un épisode chaque fois, hein, où on avançait dans le livre, on se réunissait et quelqu'un lisait. Voilà. Des cours, bien sûr, dans les universités populaires, hein, des cours du soir, hein, où on vient se perfectionner, et dans des cours plutôt sérieux. Hein. Je disais l'autre jour, c'est du dessin industriel, c'est du calcul, du français, pour progresser, hein, la mécanique, etc., hein, la physique, voilà. On avait aussi des patros, beaucoup de patros se trouvaient dans les universités populaires. Ce qu'on appelait le patro, c'était le jour où les enfants n'allaient pas à l'école, le jeudi à l'époque, pas le mercredi, mais le jeudi, hein, où on les mettait là, il y avait un local, on jouait vaguement avec eux pour un parent qui était libre ou quelqu'un qu'on prenait comme ça, hein, et souvent, les enfants du patron, à un moment donné, ensemble, avec quelques personnes du quartier, allaient en colonie de vacances, hein, et donc comme ça, continuer, mais en respirant le bon air, à profiter un petit peu de moments de vacances ensemble, en collectivité. Voilà, ça c'était aussi des choses qui se faisaient dans l'université populaire. Et puis il y avait les cercles d'études. Alors ça, j'insiste, parce que ça me paraît vraiment une méthode qui démarre à ce moment-là et qui va vraiment prendre beaucoup d'importance. Alors, un cercle d'études, Hein, c'était quoi? Ben, comme son nom l'indique, on se dit, plutôt que d'être comme ça, on était plutôt en cercle. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait ce soir. Hein. On était en cercle. 35, 40, 45 personnes. Il y avait des normes. Hein. Je vais vous faire passer d'ailleurs, juste après, des petits manuels hein, où on disait comment faire un bon cercle d'études. Hein. On choisissait des sujets en rapport souvent avec l'actualité. Alors il y avait un animateur de cercle. Alors Annie, ce serait notre rôle, hein, qui assurait un petit peu le suivi aussi, voilà, qui distribuait le débat. Hein, voilà. Et puis il y avait, selon les sujets, on allait chercher un conférencier, pour le coup ce serait nous là, qu'on appelait un laïusseur. Un laïusseur qui faisait son laïus. Voilà. Il fallait que ça dure pas trop longtemps, parce qu'on disait après les gens se lassent. Donc vous voyez, il faut prendre la leçon. 1h30, 2h maximum. Débat à la fin toujours. Et à la fin, pour pas rester sur sa chaise, on prévoyait un pot. Et le pot, c'était pas du vin blanc, c'était un grog fleuri. Voilà. Alors j'ai beaucoup cherché dans les archives pour savoir, si vous voyez, c'est l'intérêt de ça, très important de savoir ce que c'était qu'un grog fleuri. Parce que le grog, je connais, mais fleuri. Alors j'ai fini par déduire que c'était des petits parfums, vous voyez, comme on mettrait dans un vin chaud un peu, pour parfumer le grog fleuri, voilà. Mais j'ai vraiment trouvé, vous voyez, quelque chose comme ça, ou cardamone, ou des trucs comme ça. Voilà, donc, si vous voulez, cette méthode des cercles d'études s'est beaucoup propagée et a très très bien résisté. Je dirais que c'est, à mon avis, une des méthodes qui est le plus solidement implantée, et moi je trouve aujourd'hui encore que, sans savoir, quelquefois, on l'utilise. Hein? Et ça caractérisait beaucoup les universités populaires. Alors au début, il y avait les cercles pour les hommes, les cercles pour les femmes. Et il y avait quelques sujets où ça se mélangeait. Et donc, à croire que, selon les sujets, vous voyez, on était plutôt sexués, quoi, hein, par rapport voilà, au sujet. Quoi. Alors, tout ça fait qu'assez vite, et c'est ça, je crois, qui fait un peu le mouvement, c'est que les universités populaires vont se reconnaître les unes les autres. Parce qu'en fait, des initiatives, j'avais un peu dit l'autre jour, ça ne s'appelait pas forcément université populaire, ça pouvait s'appeler foyer laïque, maison de quartier, centre social. Déjà, même avant qu'il y ait la fédération qui démarre en 1922, il y avait déjà des choses qui s'appelaient centre social, centre de quartier. Enfin, si vous voulez, si on faisait une liste des appellations, dans une implantation tout à fait disparate, nationale, hein, on aurait beaucoup d'appellations. Mais au fur et à mesure, et je crois que là c'est en sac pour moi, ça fait mouvement, ceux qui faisaient des choses dans un coin se sont dit, bah tiens, eux ils ont l'air de faire un peu comme nous. Et tout doucement, en 1891, a commencé à se créer une société des universités populaires. Alors on pourrait, vous voyez, pas trop le surinterpréter, mais quand même. Hein, ça veut dire l'idée qu'on n'est pas seulement dans son coin, mais il se passe des choses qui se ressemblent. Alors évidemment, il y a eu des congrès, hein, des congrès des sociétés d'universités populaires. Il y a eu un président qui a été nommé, c'était déclaré en... Alors à l'époque, ce n'est pas encore l'association 1900, hein, mais il y avait déjà une forme associative, hein, avec des conseils d'administration, assemblée générale. Et si vous voulez bien, je vais vous lire un tout petit texte du président des universités populaires. C'était un congrès qui avait lieu en 1898. Voilà. Alors, je vous lis, hein. Il dit, c'est de ce mouvement, celui que je viens d'essayer de décrire, qu'est né et qui s'est développé l'idée de réunir en un faisceau, intéressant le mot faisceau, toutes les universités populaires éparses. Chaque université populaire doit avoir, dit-il, son autonomie, sa vie propre, être dirigée par le comité que ses adhérents ont élu. On est en 1898. Hein. Toutes ne seront pas faites sur un modèle unique. Donc vous voyez, voilà. Hein, tout de suite, l'idée de chacun fait dans son lieu ce qu'il pense être bien. Hein. Alors après, ce président continue à essayer de donner une définition de l'université populaire. Je cite. Ce n'est ni un patronage, ni une succursale de cours d'adultes. Elle est avant tout une association intellectuelle et morale d'égo volontaire. Voilà où j'ai pris ma phrase. Hein. L'idée... continue à le citer, qui est au principe de son existence et l'idée de la société meilleure qu'elle commence. Son ambition est d'aider les hommes à s'élever jusqu'à la vie humaine, pour cela, de les rendre de plus en plus capables de s'affranchir, en les libérant de la servitude intérieure qui entraîne toutes les autres. Voilà, tu vois, on commence à sentir quand même un discours un peu politique. Hein,
la transformation intérieure.
Hein, Voilà. C'est quand même, l'objectif est bien donné, là, bien conscient, je dirais. Hein. Alors, je lis encore trois phrases parce qu'on continue un petit peu à essayer de définir. C'est une association laïque qui se propose de développer l'enseignement populaire supérieur. Alors, moi, ça, j'aime beaucoup, l'enseignement populaire supérieur. Qui poursuit l'éducation mutuelle des citoyens de toutes conditions. Alors là, on peut retenir au système d'éducation mutuelle. Très important. Hein, qui organise des lieux de réunion où le travailleur puisse venir, sa tâche accomplie, se reposer, s'instruire et se distraire. Les universités populaires, je cite encore la dernière phrase, sont l'aboutissement de deux grands mouvements, le mouvement ouvrier et le mouvement scolaire. Aussi naissent-elles dans les bourses du travail, j'en ai pas parlé, mais c'est une structure qui se développe parallèlement aux universités populaires, quelquefois d'ailleurs se confond avec, évidemment d'une origine beaucoup plus syndicale, hein, au niveau de défense du travail. Donc, aussi naissent-elles dans les bourses du travail et autour de l'école laïque, par toute la France, les universités populaires se fondent. Voilà. Voilà. Alors, bon, j'ai pris cet exemple, mais sûrement on pourra en trouver d'autres. Néanmoins, je trouve que ça illustre. Mais je te laisse commenter.
Non, mais on peut peut-être.
Ouvrons le débat, bien sûr.
Discuter, moi j'ai deux, trois petites choses, notamment, mais on y reviendra. C'est sur l'intérêt du mot laïque.
Oui.
Oui. Que je me permette d'écrire, même si c'est au masculin, et laïque.
QE, là, c'est écrit QE.
En risquant de faire une faute sur laquelle je m'expliquerai, bien entendu, si la question est posée. Mais je crois que c'est intéressant qu'on discute.
Oui.
Sur l'ensemble de cette phase.
Oui,
c'est
voilà.
La première question la plus difficile.
Le discours là, sur les universités populaires, j'ai l'impression d'entendre, dans la première partie tout au moins, une description du mouvement de la franc-maçonnerie. Ça se situe comment la franc-maçonnerie là-dedans ? Il ressemble pour partie au cercle d'études.
Cercle d'études. Je dirais qu'il n'y a aucune revendication officielle, tu vois, bien sûr. Si on prend le trajet personne par personne de ceux qui ont été actifs dans cette affaire, plutôt au niveau national, à mon avis, on va retrouver des gens qui ont fait des parcours qui peuvent être francs-maçons. Mais pas tous, je pense. Et en tout cas, ça ne retranscrirait pas, il me semble, toutes ces initiatives éparses dont il parlait, parce que là, je vous ai cité quand même les paroles du président de la Société des universités populaires, tu vois, c'est donc déjà un petit peu là-haut. Mais dans la pratique, je pense que les origines idéologiques et militantes des gens qui étaient là étaient quand même beaucoup plus variées. D'ailleurs, même sur le mot laïque, je suis pas sûre que les universités populaires, c'était une certaine forme de laïcité revendiquée, mais très, comme on dira plus tard, très ouverte, très large. Hein, on pouvait tout à fait chrétien et aller dans les universités populaires. Je veux dire, il n'y avait là pas d'empêchement du tout.
Oui, moi, sur cette question, j'ai envie de vous. Enfin, j'avais évoqué la dernière fois la jonction qui s'était faite entre un certain nombre d'intellectuels comme Georges Sand avec non pas la franc-maçonnerie, mais le compagnonnage. Et notamment avec Agricole Perdiguier, lesquels, Georges Sand et Agricole Perdiguier, c'était avant 1848 mis en place un certain nombre de cercles ou de groupes ou de rassemblements de travailleurs, on va appeler ça comme ça, d'ouvriers, dans le but de transférer du savoir, transférer de la connaissance. Rappelons-nous quand même qu'on est dans un siècle où il va devenir indispensable pour le capitalisme que les travailleurs connaissent un minimum de choses pour pouvoir faire tourner la machine. Hein? C'est-à-dire l'acquisition, apprendre à compter, apprendre à lire, devient une nécessité non pas pour l'esprit, mais pour continuer à faire convenablement l'adaptation à la révolution industrielle. Hein? Donc on est aussi dans une période où tout n'est pas que de l'esprit. Il y a aussi un intérêt bien compris de permettre que ces prémices d'instruction puissent voir le jour, et notamment sur cette grande période en fait de lutte sociale qui est le 19e siècle, le lent mouvement qui va nous acheminer progressivement, et c'était intéressant de lire ce que tu as lu tout à l'heure sur dans le discours du président, de lire progressivement l'inéluctabilité des lois Ferry et de la loi de 1901, puis de la loi de 1905, parce qu'à un moment donné, il faudra bien que les choses se gèrent. Hein. Donc 1905, ce n'est pas une loi révolutionnaire, ce n'est qu'une loi de consensus. Hein, ce n'est pas la façon dont une certaine presse peut présenter 1905. 1905, c'est une loi de compromis. c'est pas un camp qui gagne sur l'autre. Hein.
D'autres. Alors, les universités populaires, elles n'ont pas fait tant de consensus que ça. Hein. Et assez vite, il y a eu des critiques. Et j'en avais retrouvé une dans... Parce que c'est un sujet qui est beaucoup débattu. Hein. Non seulement ce qu'on y fait, mais comment les interpréter. Hein, et quel poids elles ont et est-ce qu'elles remplissent bien leurs objectifs. Et j'ai trouvé des propos d'un monsieur qui s'appelle Émile Kahn dans la revue Socialiste, qui, on le sent, est sur un versant plus critique. Alors, la question était de dire, mais qui sont ces conférenciers qui viennent, hein, ces professeurs? Est-ce que c'est les ouvriers qui apprennent aux autres ouvriers? Ou est-ce que vous les prenez ailleurs, là, ces professeurs? Et il y en a qui commencent à dire, oui, on dit que c'est populaire, mais en fait, finalement, vous prenez des gens plus savants qui viennent apprendre à des gens qui seraient moins savants. Et du coup, l'idéal n'est pas celui qui est affirmé. Alors, ce monsieur Émile Kahn, il dit une phrase, ce que les professeurs pouvaient apprendre du peuple, c'est le peuple lui-même. Ce que les ouvriers pouvaient apprendre des professeurs, c'est le savoir et la méthode. Alors après, ils discutent en disant, est-ce qu'ils l'ont fait? On est bien arrivé à cet objectif. Hein. Et il dit que quelques dangers pourraient menacer cette institution d'université populaire. Il dit le défaut de méthode dans le choix des sujets. Voilà le premier vice de l'organisation actuelle. Par ailleurs, pour certains, si ce n'est presque tous, l'université populaire doit donner un savoir encyclopédique. Le résultat a été très grave. Bien loin de donner aux ouvriers l'esprit scientifique, on les a dégoûtés d'une science parcellaire. Bon, vous voyez, ça discute fort, quoi. Hein. On se laisse pas faire, on se laisse pas émouvoir par un idéal comme ça. On discute au fond, quoi. Hein, on discute au fond. Il faut que je vous parle aussi, pour être complète, et puis je m'arrêterai après sur une autre période, mais sur le mouvement du sillon. Parce que moi, j'étais personnellement très fascinée, je ne suis pas du tout chrétienne, mais j'étais très fascinée par ce mouvement du sillon. Hein. Alors, le sillon...
Donc, Geneviève Poujol n'est pas née en 1886.
Non, Geneviève Poujol est toujours une collègue vivante. Mais c'est une des premières, reconnaissons-le,
nous sommes d'accord, hein,
à isoler l'éducation populaire et en faire l'histoire. Donc, c'est on lui doit quand même.
Absolument. Hein.
Alors, le sillon... Donc, qu'est-ce que c'est? C'était un mouvement qui se revendique absolument catholique, on dira un peu plus tard les catholiques sociaux, dont le fondateur, c'est Marc Sangnier. Et le sillon va complètement revendiquer à sa manière, et sans ambiguïté, l'éducation populaire. Alors, je dirais là, je l'avais dit toujours, je crois, les mots ne sont pas toujours fixés dans une même phrase, on va dire éducation sociale, éducation ouvrière, éducation politique, éducation populaire, mais tout ça concourt à la même idée, hein, former des citoyens, les apprendre à avoir un esprit critique, très important, et ne pas hésiter pour cela à employer des méthodes. Hein. Et alors là, par exemple, je vous lis un petit texte, voilà, à propos des cercles d'études, hein, je vais le faire passer. Alors, sachez que, si ça vous intéresse, il y a toujours la maison de Marc Sangnier, boulevard Raspail, vous voyez, c'est le métro Sèvres-Babylone à Paris, il y a encore sa maison, et il y a encore la bibliothèque qu'il avait construite avec ses amis sillonistes, hein, puisqu'il a fondé ce mouvement, et on trouve dans sa bibliothèque, on peut s'asseoir à son bureau, c'est juste si on n'a pas son stylo, et on retrouve sa bibliothèque et tout ce qu'il a écrit. C'est fascinant. Moi, j'adore ça. J'ai souvent emmené des gens là-bas. Je trouve une façon, hein, de rentrer dans l'histoire, là, dans la pratique, quoi. Et c'est assez, assez merveilleux.
C'est quand l'histoire se marie avec la poésie, vous voyez. Ouais.
Et voilà. Alors, je vous passe le petit texte, ça va vous intéresser. Voilà le mouvement du sillon. Hein, il explique tout ça. Il dit, ça commence par le problème de l'éducation populaire. Hein, il dit, question, pourquoi faut-il faire l'éducation sociale du peuple? Alors il donne, il parle du fait démocratique. Hein. Il dit, l'histoire nous montre que les peuples modernes sont en marche vers le régime démocratique. Le fait démocratique est d'ailleurs accepté par des penseurs éminents appartenant à tous les partis. Vous voyez, là, l'objectif est clair. Hein. Voilà. Et après, il va tout de suite sur les cercles d'études, parce qu'il a beaucoup contribué à faire des méthodes pour ça et organiser ça. Donc je fais passer ce petit papier. Et ce qui m'intéresse là de souligner avec vous, c'est que ce mouvement a fort bien marché des sionistes. Non seulement ils ont créé donc plein de réunions à Paris, mais aussi dans beaucoup de provinces, de villes, de petite et moyenne importance, des espèces de groupes, hein, où quelques-uns se mettaient en route, et voilà, et des réunions, des initiatives en quartier, enfin beaucoup, beaucoup de choses, des débats. Alors là, j'adore ces petits livres, donc je ne résiste pas au plaisir de vous les passer. Hein, Marc Sangnier, les deux côtés. Alors, je vais juste vous donner celui-là, par exemple. Ça, c'était parce qu'ils avaient mis au point des méthodes presque de spectacle. Ça, c'est une conférence controverse. Alors, on pourrait en prendre graine aujourd'hui, hein, pensez-y. Hein. Alors, voilà, le sujet, c'est christianisme et socialisme. Jules Guesde et Marc Sangnier. Donc, il y a un métronome dans la salle. C'est une salle de cinéma, en général, ou une salle de théâtre. Il y a du public. On donne tant de temps à Jules Guesde pour donner son idée là, sur ce sujet, tant de temps à Marc Sangnier, son contradicteur. Selon les applaudissements du public, on redonne du temps à l'un ou à l'autre, et après, à l'applaudimètre, on voit celui qui a gagné. Voilà, vous voyez, nos actuels candidats pourraient s'en inspirer, je trouve. Voilà, je vous fais passer les petits livres rouges. Et alors, ce qui m'intéresse là, et je finirai là-dessus pour cette période, hein, parce que sinon je vais parler. Je dois vous dire que pour moi, cette période est quand même très intéressante, très fondatrice de pratiques, hein, de pratiques de réflexion, de travail, que quelque part je trouve plus créatif que dans les autres périodes que j'ai citées. Voilà. Alors, figurez-vous que le Sillon, en 1910, a été condamné par l'Église, par le pape. Alors ça, c'est terrible, hein, c'est terrible parce qu'ils l'ont extrêmement mal vécu. Hein. Alors je voudrais vous retrouver, parce que ça c'est tout à fait important, le moment, les raisons, hein, qui sont évoquées à ce moment-là. Il faut que je... Voilà. Voilà. Alors le pape, c'est Pie X, hein, et ils sont excommuniés par le pape Pie X. Alors imaginez ce que c'était des catholiques fervents, militants fervents. Imaginez les faits que... Ils s'en sont d'ailleurs jamais remis. Et le MRP dont on parlait tout à l'heure, et que parle des héritiers lointains du Sillon, mais, et le PSU aussi a été dans ce sillage-là. Mmh. Hein, je ne dis pas qu'il n'y avait que des chrétiens au PSU, mais il y avait un certain nombre de chrétiens au PSU. Hein, le PSU, c'est le parti qu'a fondé Michel Rocard. Enfin, pas tout à fait.
PSU 1960, oui. Issu de la fusion de trois
organisations
politiques, le Parti Socialiste Autonome et de l'Opposition de la SFIO, Martinet, Claude Bourdet et Tribune du Communisme, Jean Potrain.
Voilà.
Il y a eu donc PSU ensuite, qui a évolué sur le
Parti Socialiste.
Mais on vient, était presque encore en barboteuse.
Il était encore jeune. C'est après lui qui a tiré le PSU. Ça va ou c'est un peu rapide?
C'est juste que, en fait, je
suis PSU. Ah oui. Ah ben, il y a des gens qui disent.
C'est alors.
Voilà. Alors, si vous voulez, il y a eu deux textes. Alors, j'ai apporté celui que je t'ai passé, là, l'encyclique de 1800. Parce qu'en fait, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le Sillon s'est créé sur le pape précédent, Léon XIII, avait fait l'encyclique 1891, Rerum Novarum, extrêmement, moi je dirais, révolutionnaire. Je vous la passer, c'est un truc que j'ai repris sur Internet.
Lire la page 2, c'est la meilleure.
Hein, voilà. Mais c'est vrai que je ne vais pas trop m'étendre, mais vraiment. Le Sillon était dans ce sillage-là.
Des choses nouvelles pour ça, pour les gens qui n'ont pas fait de latin.
Oui, voilà. Et qui développait l'idée de la question sociale. Hein, donc c'est une certaine façon de situer, d'avoir une idée de la société, hein, où on dit, ben, dans la société, il dit assez clairement, il y a des riches et des pauvres. Ce sera toujours comme ça et ça risque d'empirer, enfin, je résume. Et vous, les catholiques, peut-être il y a quelque chose à faire, vous pouvez militer pour qu'il y ait un petit peu moins de riches et un petit peu moins de riches et un petit peu moins de pauvres, et en tout cas qu'il y ait un militantisme, hein, qui s'exerce.
Hein, une idée forte, hein, voilà, sur laquelle va se fonder le MRP et le centre en France depuis, c'est l'idée qu'entre le capitalisme, cet oppresseur infâme, il y a des affres de cupidité, etc., et puis d'un côté, puis de l'autre côté, les socialistes qui ne pensent qu'à l'appropriation collective des moyens de production, il y a une voie royale qui est à mi-chemin entre les deux, c'est, etc. C'est la page 2. Et ça, c'est essentiel, si on veut comprendre ce que c'est que les classes sociaux.
Hein, on est quand même là dans une espèce de conscience politique, hein, posée quand même par un pape, hein, dans lequel, justement, vont s'enfourner, je dirais, s'engager, hein, ces catholiques militants. Voilà. Alors, donc, vous voyez, ils ont fonctionné à partir du pape Léon XIII, et c'est le pape Pie X, en 1910, qui les condamne. Alors, je voudrais quand même vous lire les quatre termes qui sont dans le texte de Pie X, hein, ça a été écrit noir sur blanc par Pie X, pourquoi il condamne le sillon. Vous allez voir qu'il condamne sur des méthodes. Sur des méthodes d'éducation populaire. Alors, je vous donne les grands arguments. Hein. Le premier, c'est le langage trop entraînant des orateurs. Voilà une des premières causes de condamnation. Bien. Ensuite, la propension du mouvement à l'autonomie. Bon, l'autonomie, évidemment, par rapport à la hiérarchie de l'Église. Hein. Deux, troisième argument, la proportion entre les catholiques et les autres. Hein, ça veut dire, en d'autres termes, la trop grande place laissée, là je cite la phrase, aux démocrates protestants et aux libres penseurs. Hein, c'est-à-dire, le sillon, effectivement, a recruté large. Hein, même si les fondateurs étaient tout à fait inscrits dans le catholicisme, dans une ferveur catholique, ils ramassaient, voilà, hein, là, évidemment, avec tout ce qu'ils organisaient, beaucoup de gens venaient dans leur sillage. Et ça dérange le pape Pie X. Mais, la critique principale porte sur l'objectif d'émancipation politique visé par les compagnons de Marc Sangnier. Hein? Et voilà ce que le pape écrit dans sa condamnation. Le sillon propose le relèvement et la régénération des classes ouvrières. Il place l'autorité dans le peuple et prend comme idéal à réaliser le nivellement des classes. Voilà. Et ça, évidemment, eh bien, ça n'a pas plu du tout au pape. Et là où il intervient encore plus, c'est qu'il dit « Le fait de se mettre en cercle fait qu'il n'y aurait plus de différence. » Là, je dis de mémoire, mais j'ai retrouvé aussi là tout ce texte. « Il n'y aurait plus de différence entre le maître et l'élève. » Et le pape condamne, parce qu'il dit ça, c'est pas possible de choisir cette méthode-là, de s'enseigner mutuellement. Hein, et c'est voilà. Donc je veux dire, vous vous rendez compte quand même que une condamnation porte sur des méthodes pédagogiques. Voilà. Hein, et ça, je crois que ça montre que cette éducation populaire naissante hein, dans cette période-là, ne s'est pas imposée si facilement et que ça a déclenché la passion, des conflits. Et les sionistes ont été écrasés par cette excommunication, écrasés. Ils s'en sont pas remis, je dirais. Voilà. Sur cette période, je ne vais pas dire plus, parce que enfin, c'est... Ah, mais je vous laisse
discuter un peu.
Un petit peu. Voilà.
Est-ce que ça ne rappelait pas, au fond, le comportement du protestant, des époques héroïques, qui lisaient la Bible même, alors qu'au lieu que ce soit le curé qui allait leur chanter, il y avait un danger social, c'est évident, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un danger du côté des pratiques religieuses elles-mêmes?
Oui, c'est-à-dire que peut-être que l'histoire de... Je ne vais pas faire l'exégèse de la papauté, mais entre les positions qui paraissaient à l'époque progressistes de Léon XIII, ou en tout cas la volonté d'avoir un discours adapté à l'époque, et le retour en arrière, on dirait réactionnaire, de la suite, et notamment de Pie X. Là, à ce moment-là, il y a effectivement quelque chose qui est probablement lié au phénomène que vous dites. C'est-à-dire que comment peut-on laisser la catéchèse elle-même s'enseigner, c'est-à-dire se passer de ceux qui savent, à savoir les théologiens. Si on laisse ce mouvement se creuser, ce fossé se creuser entre eux, alors effectivement, ça devait leur rappeler ce qui s'était passé un certain nombre de siècles plus tôt avec Luther et Calvin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est structurellement impossible de penser que j'ai pas beaucoup l'habitude d'employer ces mots-là, mais de laisser aller la grande communauté des catholiques, pour être clair, sans guide, sans pasteur, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, l'éducation populaire ne fait que s'opposer à cette idée que, non pas qu'il ne peut pas y avoir de gens qui savent, mais c'est qu'il ne peut pas y avoir de retenue de ce savoir, et que tout doit pouvoir se partager. Effectivement, là, c'est révolutionnaire comme idée. que le savoir se partage. Si le savoir se partage, l'information se partage, l'autorité se partage, etc. Donc on n'en sort plus, quoi. C'est clair. C'est plus une société organisée.
Je retrouve la phrase, hein, ils disent, les cercles d'études sont de véritables coopératives intellectuelles où chacun est tout ensemble maître et élève.
C'est ça.
Et ça, clairement, pour le pape, c'est pas supportable. Ah, vous voyez, c'est...
Mais oui, parce que
soit mêlé de pédagogie, quand même.
Philosophiquement, ça repose sur l'infaillibilité papale. Voilà. Si on veut maintenir ce dogme qui est une espèce de curiosité intellectuelle, c'est un peu comme la guérison des écrouelles. Alors à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus la possibilité de respect de cette hiérarchie, pourquoi y aurait-il une infaillibilité papale? Et s'il n'y a plus cette infaillibilité, il n'y a plus d'église catholique quand même. Il faut quand même être clair.
Si les sionistes continuent, chaque citoyen deviendra une sorte de roi et chaque ouvrier deviendra une sorte de patron. C'est écrit, hein. Voilà.
Oui. Le plus intégral.
C'est écrit, c'est quand même quelque chose. Ce texte est tout à fait merveilleux.
Excommunié, ça veut dire qu'il ne pouvait plus ni se marier, ni être enterré à l'église, ni recevoir la communion, ni etc. Enfin, c'est. Pour être catholique, c'est vachement grave.
Ah, c'est grave. Hein. Ils ont très très mal perçu. Oui, c'est ça, quand on n'est pas. Mais pour des catholiques, c'était vraiment très très grave. Hein. Alors, pour conclure...
Encore une petite chose sur la période.
Bon. Oui, mais tu vas voir, parce que ça conduit sur l'autre. C'est un congrès des bourses du travail et des universités populaires qui a eu lieu en 1900. Ils font une petite enquête. Oui, ils ont quand même...
1887, la création des bourses.
Oui, les bourses du travail, oui. Alors là, une petite enquête, et voilà, la question est la suivante. Alors, je dirais que moi, j'ai retenu les questions de l'enquête, car je ne suis pas très convaincue après des résultats, ils n'avaient pas trop de moyens. On a répondu un peu comme ça, les gens qui étaient au congrès, quoi. Mais c'est les questions qui m'intéressent. Première question, on demandait, est-ce que dans le ressort de chaque bourse du travail et université populaire, est-ce que les cours professionnels ont contribué à augmenter les salaires? Les cours professionnels qui ont suivi les ouvriers, hein, vous me suivez. Alors, massivement, oui, dans les questions, toutes les réponses qu'ils ont eues. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait l'autre jour, même si on n'a pas un nouveau diplôme, quand on peut dire qu'on a suivi des cours, en général, là où on travaille, ça donne des avantages, y compris en salaire. Deuxième question, est-ce que ces cours ont relevé la valeur technique des ouvriers en général? Bon, en général aussi, réponse positive. Et puis, troisième question, celle-là qui m'intéresse le plus, est-ce que les ouvriers qui ont bénéficié de ces cours sont restés ouvriers et en communauté de principe avec leurs compagnons, ou est-ce que désormais ils forment des pépinières de contremaîtres et de surveillants? Et ça, oui. Et ça, je trouve que ça, c'est très important pour moi, en tout cas, de réfléchir à ça, parce que on sent là déjà les avantages et les limites de cette éducation populaire dont certains pourraient bénéficier, qui forment une couche, alors, comme on avait dans un article, un horizon élitaire, hein, même chez les ouvriers. Mais attention, car celui qui en a bénéficié, il va monter dans l'ascenseur social, comme on dirait aujourd'hui. Mais attention qu'il regarde sur le bord du chemin et qu'il n'oublie pas ceux qui n'en ont pas encore bénéficié. Et bon, alors là, je fais une grande projection et donc je quitte de la période, mais je me permets cette appréciation. C'est que je me suis demandé souvent si l'éducation populaire n'avait pas une tendance à former ses futurs contremaîtres ou surveillants, enfin, comme on les appelait à l'époque, des super ouvriers, quoi, hein, une classe moyenne, et n'a pas eu tendance à oublier sur le bord du chemin ceux qui étaient en situation matérielle, sociale, plus difficile. Et la crise, alors c'est pour ça que je fais un grand bond, hein, la crise arrivant, hein, la crise d'aujourd'hui, est-ce que l'éducation populaire a été en prise sur ces couches sociales qu'on appelle aujourd'hui en difficulté, défavorisées, etc. Hein? Enfin voilà, c'est une vaste question. Mais ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, on sentait déjà cette idée-là. Hein, est-ce que le fait d'être formé plus, ça fait quitter les compagnons du départ, évidemment.
Sûrement,
sûrement quelque part, hein, moi je pense aussi. Ouais.
Je crois profondément.
Vous pouvez développer un peu ça, pardon. Ouais.
C'était quand même des gens bénévoles de tous les côtés, ça veut dire ceux qui venaient pour donner leur connaissance et puis ceux qui venaient pour les recevoir. Et je crois que quand on parle de ça, ça nécessite quand même quelque chose d'important pour la valeur des gens qui se donnent à fond, qui ne connaissent pas mais qui veulent apprendre. Et s'ils veulent apprendre, c'est bien quand même pour se monter dans la hiérarchie, sinon ça n'a pas de but.
Il y a un exemple intéressant qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu dans la législature élue en 1981, il y avait 3 anciens directeurs de maisons de jeunes parmi les députés élus et un président de fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture qui a été nommé ministre. De quoi, à votre avis ? Des anciens combattants. Le président Lorrain, je ne me souviens plus de...
Oui, Jean Lorrain.
Jean Lorrain, qui était d'ailleurs président de la Fédération régionale de Lorraine.
De Lorraine, c'est vrai.
A été le ministre des anciens combattants. Et les 3 députés en question que moi j'ai rencontrés, parce que je m'intéressais de très près à ce qu'ils pouvaient bien faire, se sont surtout empressés de ne plus se souvenir de leur passé.
Oui, c'est ça.
Parce que cette affaire de la promotion de l'ascenseur social, de promotion sociale chez les animateurs est tragique en ce sens que une fois qu'on est sorti, une fois qu'on est promu, on a tellement du mal à parler de son passé qu'on vit, on est très heureux de vivre le présent. Et ça, c'est une véritable calamité pour l'éducation populaire. C'est-à-dire que l'ascenseur social n'est pas...
Est-ce que vous pensez que les gens, leur passé, ils veulent aller...
Ah oui, je pense, oui. Ah, ben, écoutez, moi, je vous cite mon expérience. Hein. J'étais frappé quand j'ai... Ah non, mais je ne parle pas de vous, là. Je ne parle pas de moi non plus. Je suis simplement en train de citer 4 cas, et puis d'autres aussi que je vais vous citer dans un moment, mais très courtement. Simplement que la formation des animateurs... pour en faire des directeurs de structure, avaient un objectif précis, en faire des gestionnaires. Puis ensuite, des gens qui devenaient des universitaires. Il n'y a rien qui vaille plus quand on a été animateur, titulaire de son certificat d'études, à la limite de son bac, que de devenir celui qui va pouvoir avoir une licence. Et dès qu'il va avoir sa licence, il va faire correspondre cette nouvelle situation à quelque chose qui est une promotion, et donc on va progressivement oublier parce qu'on va pas en avoir honte, mais on va pas en parler, on va devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un vrai, c'est en ce sens que je disais que c'était un vrai problème. Et ça, moi, je l'ai vécu je ne sais combien de fois avec des collègues.
C'est dommage.
Oui, mais dans l'histoire de l'éducation populaire, on peut aussi penser que si on retrouve cet élément comme une espèce de fil rouge, quoi, hein, de choses qu'on... On va s'expliquer aussi pourquoi on a si peu de documents écrits, si peu de synthèses, si peu d'analyses, si peu, en fait, de témoignages.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est tout à l'honneur de quelqu'un qui, par exemple, part d'un niveau relativement bas parce qu'il n'a pas eu la possibilité de pouvoir s'inscrire. Et moi, je parle de ça dans des années plus éloignées encore parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus tellement... C'est pas la même valeur. Tout le monde va à l'école, tout le monde passe son brevet, son bac, etc. Mais par exemple, moi qui suis d'une génération haute, je trouve quand même valorisant que quelqu'un qui va chercher en dehors de son travail, parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui travaillent et qui s'inscrivent.
En plus, après.
Moi, je trouve que c'est vachement valorisant de se dire je suis partie de pas grand-chose et puis j'ai réussi à faire ça. C'est pas.
Pour moi, c'est valorisant.
Alors, on va vite tomber d'accord.
D'autres remarques sur cette période-là ? On change de période ? Oui. Bon. L'entre-deux-guerres, vous l'avez très bien tracé tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas dire beaucoup plus que ce que vous avez souligné, sauf peut-être à dire que dans cet entre-deux-guerres, le mot « génération », hein, est un mot très important, très, très employé. Hein. Alors, on oppose ceux qui ont fait la guerre et ceux qui ne l'ont pas faite, bien évidemment, hein, et on est très soucieux de la succession des générations, d'autant, vous l'avez bien montré, que d'un point de vue démographique, on est dans le creux démographique. Et penser que tous ceux qui étaient en âge d'avoir des enfants sont restés sur les tranchées. Hein. Donc, effectivement, on se soucie de ceux qui arrivent. Et je crois qu'on veut à tout prix les former. Donc, on dit oui, il y a l'école, il y a la famille. Mais on commence à concevoir pour cette future jeunesse, hein, on pense même en termes d'enfance, d'adolescence, qu'il faudrait créer une autre façon d'acquérir une éducation qui soit au-delà de la famille et au-delà de l'école. Et je crois que c'est comme ça que se crée ce tiers secteur, hein, je dirais, de possibilités d'éducation et donc de former. Mais alors, on pense en termes de tranche d'âge. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup frappée. C'est pas beaucoup ressorti encore des travaux qui portent sur cette période. Mais quand on l'a en tête, moi, j'ai assez bien vu fonctionner ça. Hein? Donc, on va commencer à penser à des activités qui, à l'époque, au 19e siècle, bon, que ce soit la Ligue, chez les catholiques, chez les protestants, bon, les tranches d'âge se mélangeaient. Enfin, on pensait pas une activité, une tranche d'âge. Tandis que là, on commence à penser comme ça. À faire des catégories. Hein? Alors, Léon Blum, qu'on ne présente pas, hein, dans le sens où, en plus, cette année, avec le Front Populaire, on en a beaucoup reparlé, j'ai retrouvé un de ses discours en 1934, donc avant le Front Populaire. Il était à la Maison de la Mutualité et il constatait, comme on a un peu dit tout à l'heure, que tout le monde voulait faire le mouvement de jeunesse qui correspondait à son courant d'idées, à son courant politique, son courant éducatif, et voilà. Alors je vous lis sa phrase, parce qu'elle est assez forte, et voilà ce qu'il dit dans son discours, 3 juin 34. Hein. « Nous vivons dans un temps où tout le monde s'arroge le droit de parler au nom de la jeunesse, où tout le monde, en même temps, veut s'emparer de la jeunesse, où on se la dispute, où on se l'arrache. Tous les partis, maintenant, ont vis-à-vis de la jeunesse leur démarcheur. » Voilà. Des marcheurs au sens de vendre des aspirateurs, un peu, hein, on sent un petit peu d'ironie quand même. Alors, vous l'avez bien dit, hein, il y a des mouvements politiques qui créent leur jeunesse, les jeunesses politiques, les mouvements éducatifs qui vont entre 1920 et 1930 augmenter beaucoup, hein, se créer, un coup sur coup, une année sur l'autre, que ce soit des laïcs, des confessionnels, des courants éducatifs différents. Il y a aussi tout le mouvement des colonies de vacances, qui est ancien, hein, parce que les colonies de vacances, je ne sais pas si tout le monde sait, mais c'est vieux, hein, les premières colos, c'est le milieu 19e siècle. Hein, il y a eu déjà beaucoup d'organisateurs de colonies de vacances. Ceux qui connaissent un peu l'UFCV trouvent ses origines en 1907. Hein, c'était l'idée de se grouper à plusieurs organisateurs pour payer moins cher l'assurance et pour payer moins cher les transports de train. Au départ, c'était ça. C'était une affaire économique, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on prend conscience que les colonies de vacances, il y a d'abord une priorité sanitaire. Hein. Et puis après, c'est plutôt dans les années 30, 35, ça commence, un souci, même un petit peu avant, 1929-30, on commence à dire, ces surveillants, parce que c'est les surveillants qui sont dans ces colonies de vacances, ne sont pas formés, on les trouve à la dernière minute, c'est des étudiants, c'est des chômeurs, c'est des gens qui connaissent pas bien tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à les former ? Voilà. Et c'est comme ça, tout doucement, va naître ce besoin de formation des moniteurs de colo, comme on les appelle à l'époque. Et les premières initiatives de formation, c'est 1936-37. Voilà. Et les CMEA, si vous connaissez, le Centre d'entraînement méthode d'éducation active, s'il y en a qui ont fait des colos, vous devez peut-être connaître cette association qui existe toujours, qui est assez développée, hein, a démarré comme ça, en faisant une formation de moniteurs. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, et ça c'est bien dans l'entre-deux-guerres, et ce qui m'intéresse aussi c'est en termes de méthode. Car l'hypothèse que je fais, c'est que dans ce contexte-là qu'on a décrit, l'éducation populaire, ça c'est ce qui s'est déjà dans la première période, est de plus en plus saisie comme une méthode. Et il y a beaucoup de bouquins que j'ai trouvé de méthode. Alors j'ai oublié de l'apporter, j'avais apporté le manuel des cercles d'études, qui est publié par une édition chrétienne, où on dit comment faire un bon cercle d'études. Parce que les méthodes, il faut que ça marche. Un peu ce que je vous ai passé du sillon, dans le même genre, mais c'est des bouquins, des manuels vraiment. Hein? Bon voilà, après c'est comment devenir chef, comment former des chefs. Le mot chef dans l'entre-deux-guerres, avec une majuscule, est beaucoup employé. Hein? Et on commence à inventer, alors ça moi je trouve ça assez fascinant, une formule qui est nouvelle. Alors je ne peux pas vous dire de quand pile elle date, mais je sais que c'est entre les années 20 et 30, la formule du stage. Ça n'existait pas avant, le stage. Hein? Le stage se définit comment à l'époque ? Comme on dit, une communauté provisoire. Ça, c'était un mot que j'aime beaucoup d'Emmanuel Mounier, vous savez, qui était le directeur de la revue Esprit, là, que j'ai apporté. Là. Et il dit, voilà, un stage, c'est une communauté provisoire. Donc, un stage à l'époque, parce que les gens n'avaient pas les congés, comme on a après, congés carte jeunesse, tout ça. Donc, il fallait qu'ils prennent sur leur temps de vacances, le peu qu'ils avaient, ou s'arranger dans leur travail. Donc, ça pouvait être 6-7 jours maximum. Quelquefois, c'était 5 jours, et après, on se revoyait un week-end. Hein? Là où on avait du temps. Toujours à la campagne. Ça, moi, je comprends jamais pourquoi, mais le stage, c'est forcément à la campagne. Enfin, je rigole parce que j'ai compris pourquoi. Mais, hein, pour que la communauté provisoire soit bien. Qu'elle ne puisse pas s'évaporer hein, dans la ville.
C'est une méthode.
Hein. Où on partage la vie collective, il y avait déjà cette idée-là. Hein. Et où on fait venir. Il y a un programme, il y a des instructeurs, le mot est là, qui est un mot de l'armée un peu, hein, mais qui est employé beaucoup à l'époque, voilà. Et puis, on fait venir des conférenciers, des laïusseurs, parce que ça, l'étude est beaucoup utilisée, qui viennent juste pour un jour ou deux et qui après repartent, voilà. Ça, c'est le stage. Et on va bien sûr, vous connaissez tout ça, mais c'est intéressant, c'est que c'est vraiment une forme pédagogique qu'on inaugure.
Ouais. Voilà. Peut-être un mot là-dessus, parce que ça paraît... Ça paraît un peu formel.
Oui.
Mais c'est une méthode pédagogique, le groupe.
Tout à fait.
D'abord, le groupe, c'est pas 50, c'est pas 40, c'est pas 5 non plus.
Non, c'est 70-80 à l'époque, pour un stage.
Oui, ce qui veut dire qu'à ce chiffre-là...
C'était des stages plus gros qu'aujourd'hui. Hein.
On ne peut rien faire, quasiment, que de la transmission magistrale de savoir, avec toutes les limites... que ce type de méthode peut produire. Sauf qu'à un moment donné, 70, ça ne reste pas un seul groupe. Il y a forcément d'autres phénomènes qui se produisent. Mais ça, on y reviendra peut-être après, dans la fois prochaine, dans la professionnalisation.
Ouais.
C'est qu'il y a des observations qui sont faites, qui sont très intéressantes. Je reviendrai dessus.
Très bien. Alors, c'est les cercles d'études. Alors, je vous ai dit, ça marche très fort. Et j'ai trouvé, par exemple, une phrase de 1922 par une des fondatrices de la Fédération des centres sociaux. Vous savez que j'ai évoqué un petit peu les centres sociaux que vous connaissez aujourd'hui, concurrents des maisons de jeunes. Hein, on peut dire ça comme ça. aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de maisons de jeunes en 1922. Il y avait des centres sociaux dans des quartiers, hein, bon, voilà, avec quand même une connotation chrétienne forte. Hein. Donc, ces deux fondatrices qui ont l'idée de réunir ces centres sociaux un peu épars, et d'en faire une fédération, 1922. Et dans leur discours un peu de programmation, elles disent, je cite, « Le cercle d'études bien dirigé est le sommet de l'éducation populaire. On peut y aborder tous les problèmes, orienter les esprits, redresser les jugements et constituer les vraies personnalités capables de diriger les masses. Mais le cercle d'études ne s'adresse qu'à une élite. » etc. Donc, il y a quand même cette idée de cadre, hein, qu'on sent là, mais qui va aller en se développant. Hein, le cadre, c'est celui qui a été un petit peu plus formé que les autres, qui est volontaire, hein, mais qui, quelque part, comme on disait à l'époque, a une étoffe de chef. Hein. Il y a quand même toujours cette idée, alors d'élite au sens, ce que vous disiez tout à l'heure, madame, une élite un peu éclairée, hein, qui a eu la chance de se former, mais aussi qui a une capacité à, je ne vais pas dire manipuler, mais enfin, à faire marcher les masses. Le mot masse est beaucoup utilisé à l'époque. Masse élite, c'est.
En t'écoutant, on a le sentiment que la période est quand même très, très, très marquée par l'action des catholiques sociaux.
Ils sont importants, il n'y a pas qu'eux, mais ils sont importants.
Oui.
J'aurais pu prendre d'autres exemples.
Non, ce qui est intéressant, c'est que, en relation avec des mouvements de jeunesse, parce que ça prépare d'une certaine façon ce qui sera rendu possible avec le tripartisme, c'est que lorsque Baden-Powell crée le scoutisme, dans les mêmes périodes, c'est-à-dire dans les années 1910, quand on crée, quand le scoutisme est créé avec un certain nombre de règles, se décalque la création en écho des éclaireurs et éclaireuses de France, aujourd'hui les éclés, qui se définissent précisément par leur non-adhésion à un projet, religieux. Hein. Bon, et à côté de ça, un peu plus tard, dans les années 30, 1929-1930, il y a la création de quelque chose qui est intéressant parce que c'est l'irruption de l'art et du théâtre dans l'éducation populaire, avec la création de d'une troupe qui s'appelle les comédiens routiers, Léon Chancerel, qui vont effectivement avoir comme objectif d'implanter des représentations partout où il y a la nécessité, partout où on n'en voit jamais, dans les faubourgs, dans les campagnes, là où on peut effectivement permettre à ceux qui jusque-là n'ont jamais eu cette possibilité d'avoir une approche du théâtre, à la fois en voyant des spectacles, mais aussi en participant à des animations autour des spectacles. Et ça, c'est une idée tout à fait intéressante parce qu'elle sera reprise, notamment dans cet outil dont on a un peu parlé la dernière fois, qui sont les stages de réalisation. C'est un outil d'éducation que la proximité de l'expression artistique.
Tout à fait, tu as raison de le dire. Alors, excuse-moi.
En même temps, y compris par rapport à la première période, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas assez quand même la dualité entre le confessionnal et le laïc.
Le confessionnel, peut-être. Oui.
Le confessionnel et le laïc, c'est-à-dire une dualité en fait de compétition depuis la naissance.
Ça dépend des périodes, à mon avis, tu vois.
Mais quand même, depuis la naissance des premiers mouvements,
oui.
Et qui pourtant répondent à deux philosophies en opposition. D'un côté, l'émancipation, l'émancipation au sens large, et de l'autre côté, le cadrage, que tu viens de citer tout à l'heure.
Voilà. Mais ce serait un sujet de cercle d'études. Hein? Mais moi, je ne pense pas que l'émancipation soit mieux du côté des laïcs. La preuve, tu lis le sillon, tu vois qu'on parle d'émancipation aussi.
Enfin, le sillon,
La preuve, puisqu'il a... Oui, voilà. Voilà. Mais ça veut dire qu'au départ, il y avait bien...
précisément sort du cadre.
Ben, il a été sorti du cadre, mais au départ, lui, il revendiquait là-dessus aussi.
Oui, tout à fait.
Hein? Parce qu'on sait bien qu'aussi, dans les catholiques sociaux, quand on fait un peu la suite des mouvements, ben, on aura la JOC qui va donner tous les mouvements syndicaux. Hein, la CFTC, la CFDT, il y a beaucoup de gens de la JOC. Hein, et la JOC, voilà. Donc je veux dire, on a une conscience politique qui est aussi importante dans les mouvements chrétiens. Pas tous, mais un certain nombre.
Je crois qu'on touche là quelque chose d'essentiel
au débat.
Dans l'éducation populaire, c'est que c'est un mouvement qui est hétérogène.
Oui. Pour moi, il est autant laïc que chrétien, je veux dire.
Il est hétérogène sur le plan confessionnel.
Mais il est traversé par les débats, excuse-moi.
Non, je t'en prie, non, mais c'est ça. Il est hétérogène sur le plan confessionnel, il est hétérogène sur le plan politique.
Ouais.
Et pour autant, il constitue d'une certaine façon, quand on essaie de s'abstraire, pas de s'extraire, de s'abstraire des enjeux à la fois confessionnels et politiques, une véritable école de citoyenneté. Mais... je dis bien une véritable école, j'ai pas dit une véritable réalité sociale. C'est-à-dire que, en gros, c'est une virtualité, c'est pas quelque chose en acte. Ce qui fait la difficulté de la chose, d'ailleurs.
Alors, je peux pas ne pas parler un petit peu du Front Populaire, surtout en 2006, où on le fête. Et, bon, beaucoup de choses ont été dites, donc vous connaissez, mais quand même... Je voulais souligner une position, vous savez qu'il y a eu Léo Lagrange, hein, qui a été d'abord sous-secrétaire d'État et puis secrétaire d'État. N'oublions pas quand même que la charge ministérielle qu'il a, au début ça s'appelle sous-secrétariat d'État à l'organisation des loisirs et des sports, en 1936. Hein, voilà. Et au départ ça reste dans le giron du ministère de l'Éducation nationale, à l'époque ça s'appelait l'instruction publique. Hein. Et puis après... le sous-secrétaire d'État devient secrétariat d'État à part entière, avec toujours Léo Lagrange à sa tête. Et là, il est chargé de trois secteurs principaux. Premier, les vacances et le plein air. Deuxième, le sport. Et le troisième, c'est la culture populaire. Hein, donc c'est intéressant que tu cites Léon Chancerelle, parce que je dirais que le concept, et ça, je trouve là aussi, et je suis avec des collègues, là on essaie d'y réfléchir, c'est, je crois que l'anniversaire du Front Populaire nous a fait nous remettre en cause un peu, parce qu'on dit on n'a pas assez travaillé là-dessus, où le mot culture populaire est très revendiqué par le Front Populaire, on le retrouvera un tout petit peu à la Libération, et après de nouveau il sera un petit peu noyé, je dirais, diffus, et c'est éducation populaire qui reprend dessus. Et on a peut-être eu trop tendance à passer l'un à l'autre, et à mon avis, il y a plus de distinction que ça entre culture populaire et éducation populaire. Mais c'est un petit peu compliqué, hein. Mais bon, culture populaire, tu as parlé du théâtre. Bon, il y a les ciné-clubs, hein, très importants dans le Front Populaire. Hein, il y a une dimension quand même, pour le coup, au sens réel du terme, culturelle, hein, au sens de se cultiver.
Oui, mais quelle est la définition qu'on donne à culture ?
C'est le même problème. Là aussi, il faudrait le prendre par période. Enfin, tu vois, il faudrait.
Est-ce que ce sont les objets culturels qui sont fabriqués et qui sont offerts à la contemplation, ou bien est-ce que c'est le cheminement qui fait que quelqu'un va se mettre à créer ? Mmh. Il ne va pas se mettre à créer comme ça.
Au début, dans la première période, les universités, ça touchait toutes les tranches d'âge.
A priori, oui.
Ça, on a parlé de génération, mais en fait, on parle que de la jeunesse. Même quand on entend, même aujourd'hui, les mouvements d'éducation populaire, la majorité, c'est des mouvements qui s'adressent à la jeunesse.
C'est ce que je sais. Oui, je me réponds. Oui.
Et en fait, il y a des gens pour les...
Bonne question. Ou des gens plus âgés.
Parce que même là, un numéro de Politis hors série sur l'éducation populaire.
Je suis
en train de regarder juste avant de venir ce que j'ai de trouver. Et il y a énormément d'associations de jeunesse en fait dans les associations.
Absolument. Et vous voulez, l'objectif de ma présentation, c'était de vous. Première période là, fin 19e. Vous avez vu, je n'ai pas parlé spécialement de jeunesse exprès. Parce que je pense que ça n'apparaissait pas. Et moi, c'est l'hypothèse que je fais. C'est que le moment où jeunesse s'introduit dans ce monde-là, c'est précisément l'entre-deux-guerres. Et après, ça va rester. Après, ça va rester et ça va être de plus en plus parce que les politiques, les subventions qui vont être données, notamment quand on va changer de période là, après la Libération, ça va toucher beaucoup la jeunesse. Parce que quand on va donner des subventions, on va dire globalement mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, donc c'est pour ça que j'ai jeunesse et éducation populaire, mais en fait, on dira en 45, c'est comme ça qu'on va le présenter, notre jeunesse a besoin d'une politique, notre société a besoin d'une belle jeunesse, forte, qui va faire la reconstruction, donc on va faire une politique de la jeunesse, on avait l'impression qu'on n'avait pas fait encore, donc l'État va donner des sous au mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. Donc vous voyez, c'est par le biais de la jeunesse que les sous arrivent. Et je dirais que du coup, ça solidifie ce concept institutionnel, jeunesse, éducation populaire. Et c'est donc implicitement toujours d'abord la tranche d'âge jeunesse, ou enfance, adolescence, jeunesse, qui est visée. Alors que, je suis complètement d'accord avec vous, la notion d'éducation populaire, on le sait, s'adresse à toutes les couches de la population, et même, on dit souvent, l'éducation populaire, c'est depuis la fin de l'école jusqu'à la fin de la vie. Et moi, je m'étonne beaucoup qu'aujourd'hui, où on commence à prendre conscience qu'il y a des vieux dans notre société et qu'il faudrait peut-être en occuper un peu mieux, l'éducation populaire serait parfaite pour répondre à tous ces besoins-là. Et c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'on n'y réfléchit pas beaucoup de cette manière. Allez, ça s'est imposé comme ça.
Allez-y. On parlait de la jeunesse, c'est de la jeunesse que vous connaissez un peu, mais... quand on parle d'éducation populaire, il y a donc ces mouvements qui sont de la job, de la de mouvements qui font un peu la même chose mais en laïque. Mm-hmm. Et après, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est CMA, Franca, mm-hmm. qui sont plus. Moi, je connais que la version. Dans leurs activités, je connais que la formation BAFA en fait.
Mm-hmm.
Mais je sais pas si. Comment par la formation. Je pense qu'ils ont d'autres choses à côté, de toute façon.
Oui, oui, oui.
De la formation BAFA, ça fait que de.
Oui. Vous posez la question qu'on va essayer de développer la prochaine fois, c'est-à-dire que comment non mais attendez, je dis pas ça pour vous arrêter. Mais c'est simplement que vous posez, enfin est posée tout de suite, à la fois par l'intervention de Françoise et vos questions, la question essentielle contre laquelle un certain nombre de professionnels dont nous sommes nous, la question essentielle qui consiste à dire la jeunesse, c'est une tranche d'âge. On l'apprend pour ce qu'elle est, une tranche d'âge. L'éducation populaire, c'est une méthode pédagogique qui qui poursuit des objectifs. Ouais. Elle peut s'adresser à cette tranche d'âge, mais aussi à toutes les autres, sans distinction. La différence entre l'éducation populaire, entre l'animateur qui se trouve en train d'agir l'éducation populaire et un institut ou un prof, c'est que nous n'avons pas de programme, nous n'avons pas de public, nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de murs. Ça peut être n'importe où, à partir de n'importe quoi. Et je citais cet exemple. Quelle est la différence entre le fait de monter de l'altitude 300 mètres à l'altitude 3000 mètres en 15 jours ou en une journée? Toute la différence est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en 15 jours pour passer d'un dénivelé à un autre de cette ampleur-là, alors qu'on peut le faire en beaucoup moins de temps? Eh bien oui, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe, dans les méthodes, etc. Et quel que soit l'âge des gens.
Je trouve que l'intervention, on a déjà une voix sur une chose, c'est que quelque part, on a déserté l'éducation populaire des adultes.
Voilà. Je suis assez d'accord avec vous.
Ça, en fait.
Donc, c'était aussi la question,
quel que soit leur âge.
De qu'est-ce que c'est, enfin, trouvez-vous, comme par exemple,
on a déserté.
Non, mais. Quand on parle d'éducation populaire, on parle de choses différentes.
Voilà.
Ah oui,
ça c'est clair. Par exemple, moi je me bats tous les ans pour faire reconnaître les pratiques amateurs adultes ici. On a quand même 1800 adultes qui ont des pratiques amateurs en musique, en art plastique, etc. Pas intéressant. Aucun financement. Alors que si je monte un projet lambda, pour ceux qui ont les yeux bleus et les cheveux clairs, on va dire, oui, je pourrais avoir de l'argent, mais ben, je n'ai pas ficelé quelque chose comme ça.
Ils sont jeunes.
Ils sont
moins de 25 ans.
Donc, il faut que ce soit vraiment rentré dans les créneaux. Là, effectivement, il y a des financements. Alors, moi, je me refuse à produire du faux truc. Alors qu'effectivement, notre objectif, c'est de mélanger les âges et proposer, avoir une autre démarche complètement différente. Quoi. Il ne s'agit pas de les occuper uniquement dans la distraction, mais il s'agit en même temps, à un moment donné, qu'ils puissent eux-mêmes, effectivement, à partir de rien, pouvoir transmettre, devenir des transmetteurs. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, s'il y avait pu avoir des dérives de ce que tu disais tout à l'heure, comment l'ascenseur social, etc., etc., c'est parce que, bon, il n'y avait peut-être pas non plus cette formation à devenir soi-même transmetteur, si tu veux, mais on arrivait et puis terminé, quoi. Les autres sur la route, comme tu dis. Mais le problème, c'est comment faire en sorte que tout le monde devienne à un moment donné éducateur populaire.
Sur les formations que vous citiez à propos des CMEA ou des Franca ou de l'UFCV, c'est devenu la formation BAFAB et AFD. Enfin, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai pas de devoir de réserve. Je suis en décharge syndicale, donc je ne suis que demi-fonctionnaire de ce point de vue. Je pense que c'est une des plus mauvaises formations qui existent. Je ne sais pas où vous êtes de votre cursus. Je ne suis pas en train de vous interroger, ni même de vous évaluer, mais je pense que là, c'est parfait. Non, mais je prends quelques précautions. Mais à partir du moment où l'on définit une méthode pédagogique uniquement par des recettes qui permettent de fabriquer de l'action, ça ne veut plus rien dire. À partir du moment où
vous pouvez répondre,
si peu de moyens, mais oui, mais je pense bien que il y a des exceptions. Par exemple, moi j'ai été très très marqué par j'ai passé le CAPAS. Je suis un des anciens animateurs à avoir été formé par le CAPAS. Cette énorme chose dont on ne parle plus parce qu'elle n'existe plus.
Bien.
On est deux.
Oui.
Merci camarade. Eh bien dans cette histoire, c'était des stages d'une semaine, mais beaucoup de stages d'une semaine, 14. Et donc nous avions la possibilité de faire une véritable brochette d'activité et de réflexion sur l'outil.
En internat,
ce que j'allais dire.
À la campagne.
Sur des groupes de 15 à 20, 25 parfois, c'était beaucoup. Bon. J'ai été très marqué parce que nous avions le choix ou bien d'entrer dans un centre de formation qui nous déroulait toutes les choses ou bien de choisir nos stages à la carte. Mais moi, j'ai pris à la carte. J'ai passé l'UV de gestion avec l'UFCV, qui venait de construire un outil pédago sur le sujet qui était parfait. J'ai fait l'étude de milieu chez PVKI, puis j'en ai surtout fait un avec les CMRA. Et j'ai découvert ce que c'était que la pédagogie du risque avec eux. Bien, quand on la décrit, on dit qu'ils sont complètement frappés, ces mecs-là. Hein. Quand on la vit, on acquiert une méthode pédagogique dans un groupe, à des choses précises. Donc, on peut faire des activités pour les activités, mais on peut aussi les faire comme un outil d'éducation, comme un outil d'apprentissage. Et à ce moment-là, la mise en situation de l'animateur qui est en formation, là, est un outil pour lui-même et pour tout le groupe. Et pourrait multiplier les expériences comme ça. Les CMA sont restées comme une des méthodes pédagogiques, à mon sens, pour moi, parce que ça me correspondait. Je ne dis pas que c'est universel, hein, comme quelque chose de très fort. Bon, j'ai fait un certain nombre d'autres stages où à chaque fois, il y avait la découverte de choses différentes sur le plan idéologique, sur le plan confessionnel. L'UFCV, je m'en suis pastillé pendant une semaine. Hein. Ah, bon, et oui, mais je savais où j'allais, donc il fallait bien que je découvre. Puis, c'est aussi ça. Donc, dans cette affaire, je pense que si je dis, en substance, je termine là-dessus, que le BAFA, aujourd'hui, est une des plus mauvaises formations, c'est parce qu'elle est tellement disparate et tellement peu encadrée, et que l'État a complètement démissionné de son rôle de garant d'une formation unique. Enfin, pas unique, mais d'une formation d'un niveau qui soit le même sur tout le territoire. Je suis un républicain. L'égalité d'accès des citoyens au service public, à la formation, au savoir, c'est un principe républicain. Eh bien, on a démissionné de celui-là. Je sais d'autant plus que je sais les moyens en hommes et en finances que mon ministère met à disposition des formations BAFA. C'est un scandale.
Monsieur, vous êtes en train de faire la séance du 12, là.
Merde, pardon.
Oui. Non, on est obligé de donner parole à la défense, à mes
Allez,
amis.
Allez, la parole à l'histoire.
Qui font des stages BAFA.
Le 12, tu
Oui, oui.
Oui, la controverse. Non, mais il faut les laisser répondre, quand même.
Je travaille dans un institut de formation qui forme à la fois des BAFA BFD et qui fait aussi de la formation d'adultes. Formation continue, culture générale. Et donc, alors c'était pour répondre sur le côté de la femme et de l'été. J'étais plus d'accord avec la fin que la pédérie. L'idée que, effectivement, pour nous en tout cas, la femme et l'été, c'est pas une succession de recettes de cuisine pour faire des activités avec des jeunes. Quoi. Et je pense qu'en ça, c'est relativement cadré, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs. Hein, formation-là, c'est quand même suivi, enfin, c'est ça, les gens ne font pas tout ça, n'importe quoi, quand même. Et l'objectif de ces formations-là, ça va bien au-delà de ça, quoi, c'est former des jeunes adultes à prendre des responsabilités dans la vie, enfin, parce que c'est d'abord les former à travailler en équipe, à travailler avec d'autres adultes. C'est aussi former à
des professions,
réfléchir à ce qu'ils vont faire avec des enfants.
Travailler sur un projet.
C'est une formation, je pense. Moi, je serais moins critique que toi aussi.
Je retiens. Ce
n'est pas des professionnels qu'on forme, on forme des.
Peut-être que ça renvoyait à un organisme en particulier et à sa culture et sa manière de procéder sur ce type de formation.
Non, je dirais l'inverse. Je dirais l'inverse. Je dirais que votre plaidoyer, que je reçois pour ce qu'il est, c'est-à-dire un plaidoyer basé sur de l'expérience, sur des pratiques et sur votre propre réflexion, est plutôt lui qui provient d'un organisme en particulier. Parce que je vous assure que j'ai vu des résultats, pour le coup, parce que mon métier m'a amené quand même à visiter un certain nombre de stagiaires BAFA. Hein.
Donc,
en fait, et je voulais aller dans le sens.
Pas, il ne venait pas de.
On s'est arrêté.
Mais oui, Florence, vas-y. Il est déjà.
Y compris au niveau du ministère aujourd'hui, c'est l'association jeunesse et l'éducation.
Tout à fait.
Ouais.
C'est catastrophe.
Ça, il faut bien y réfléchir. Ça,
c'est
très important.
C'est catastrophe.
Quand on discute de l'allocation de subventions, si ça ne s'adresse pas aux jeunes. Pris en compte. Quoi. Enfin, ça devient, alors je sais pas, on peut trouver sûrement plein de raisons. Est-ce que c'est parce que
on veut pallier, soi-disant, des membres de l'école, alors on investit la jeunesse. Je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Au-delà du cadre institutionnel, hein, qui fait que ça a associé jeunesse et éducation populaire.
Disons qu'avec cette association, mais ce que vous êtes en train de dire, entre jeunesse et éducation populaire, ça fait qu'il n'y a jamais eu, en tant que tel, puisque, bon, si on passe un peu la chronologie, là, on va arriver au rôle de l'État. Hein, l'État n'a jamais fait de politique en tant que tel d'éducation populaire. Hein, puisqu'il est toujours passé par le biais de la jeunesse pour donner des sous à l'éducation populaire, si je résume comme ça. Et c'est un malentendu qui n'a pas été levé tout de suite. Hein, c'est assez récemment qu'on prend conscience de ça. Et du coup, ben voilà, on est toujours avec JEP, quoi. Et JEP, ça nous colle à la peau, mais comme vous disiez, on perd là tout à fait d'autres populations qui sont directement intéressées et qui ne sont pas dans nos têtes quand on imagine des programmes d'éducation populaire.
Encore qu'on sent un regain.
Oui, en ce moment, beaucoup, oui. C'est nous, mais ça date de quelques années, là, c'est 2-3 ans, quoi. C'est tout chaud, ça.
L'école pour nous, c'est autre.
Oui, oui, je suis d'accord.
Sur cette période-là, cette période de guerre, du grand regard de 14, pendant que les hommes étaient sur le front, s'est effectué, leur place à l'usine a été remplacée, a été prise par des femmes.
Ouais.
Ce qui fait que ça les incitait à remonter un peu leur robe.
Puis elles étaient à la maison. Puis c'est elles qui dirigeaient la maison, elles étaient veuves.
Ensuite, après la guerre, ces femmes qui avaient travaillé à l'usine, ont commencé à raccourcir leurs cheveux, à remonter leurs robes. Mais par contre, n'avaient pas le droit de vote.
Pas droit de vote.
Etc. Donc ça a été un facteur social et politique sur lequel ce n'est pas vraiment notre objet là. Y a-t-il eu, dans cette période-là, des mouvements, des tentatives, des associations etc., spécifiques en direction des femmes sur le fond de l'éducation de l'éducation.
Oui.
Alors. Oui, on va dire que oui, mais plutôt des jeunes, là aussi. Hein? Hein, voilà, parce que je vous ai expliqué, par exemple, la JOC, hein, 1922-23. JOC, garçon, JOC, 27, oui, pardon. JOCF, c'est un an après, hein, 2 ans après. Hein? Alors, souvent, d'ailleurs, les stages étaient à 1 km, et il y a eu beaucoup de mariages JOC-JOCF, qui a donné la LOC, la Ligue ouvrière chrétienne. Et après la LOC, ça a donné les mouvements familiaux qui sont exactement dans cette mouvance-là à la sortie de la guerre, pendant la Deuxième Guerre et la sortie de la guerre. Donc, je dirais qu'on a, pour répondre le plus clairement possible à votre question, dans tous les mouvements qui se créent à ce moment-là, on a soit des mouvements qui ont toujours été mixtes. Exemple, les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, dès le départ, c'est mixte. Et ça se crée dans ce moment-là, 1927-30. On retrouve Marc Sandy notamment, on retrouve des laïcs aussi, puisqu'il y a des socialistes et des laïcs, mais c'est mixte. Il y a des mouvements qui toujours ont été parallèles, type JOC, JOCF, mais on va dire Scout de France, garçon catholique, Guide de France, fille catholique. Hein, donc là, on a des mouvements parallèles. Et puis, on a des mouvements qui étaient d'abord parallèles et qui, au fur et à mesure, sont devenus mixtes, type les éclaireurs de France. Qui au départ, il y avait les garçons d'un côté et les FFE, Fédération Française des Éclaireuses, de l'autre. Et très tardivement, au milieu des années 60, ça fait un seul mouvement, les éclaireurs et éclaireuses de France, par exemple. Voilà. Mais je dirais que des mouvements typiquement féminins qui auraient été plutôt sur une défense du statut de la femme et qui émergeraient dans ce secteur, de ce futur secteur, pas trop, à mon avis.
Il y a quand même, en 1925, la création de l'Union féminine, civile,
oui,
et sociale.
Exact, hein, oui, exact.
L'inspiration catholique, qui elle s'inscrit.
Qui s'inscrit là-dedans, oui.
Oui, clairement, oui, comme un lieu de rencontre, de recherche, de formation permettant aux femmes d'acquérir leur autonomie et en se regroupant d'être une force de proposition contre le pouvoir dans la société.
Oui. Disons que c'est pas. Hein, c'est quelques mouvements. Non.
Mais c'est principalement structuré autour de la revendication du vote des femmes.
Oui, mais j'ai des pays, il y a des mouvements de suffragettes. Alors on les trouve ailleurs, hein, c'est-à-dire se battre pour le droit de vote. Hein. Les suffragettes, il y a des mouvements forts dans certains pays. En France, je dirais qu'il y en a un peu, mais en tout cas, à ce moment-là, ils ne sont pas dans cet horizon-là. C'est dans, vous voyez, dans d'autres milieux. Comment on, vu le temps, Annie, je me tourne vers toi. L'heure, je peux te dire.
côté de la feuille.
Oui, parce que
oui,
là,
on... à l'autre côté. Ben, je me dis qu'on peut, parce qu'on ne va pas arriver au bout, mais peut-être aller un petit, tout petit peu sur l'intervention de l'État, si vous le souhaitez. Peut-être ça nous ferait franchir ce, au moins ce cap-là. Donc on va peut-être surfer sur la guerre, à tort, je dirais, mais il y a un bouquin là qui va bientôt paraître. Parce que vraiment là, je le redis, il y a vraiment, c'est foisonnant en termes de formation des cadres. Vous avez parlé d'Uriage, sachez juste que Uriage était une, hein, parce que Uriage, ça formait les instructeurs pour les chantiers de jeunesse. Hein, c'est ça le démarrage. Hein. Les chantiers de jeunesse, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire-là, c'était un pacte entre Pétain et Hitler pour le contingent des soldats. Hein. Du moment où on avait signé la défaite, la question était, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont appelés pour l'armée, à 20 ans, à 19 ans. Hein. Donc là, question, du moment, est-ce qu'on en fait des soldats? Ben non, puisque de toute façon, on peut pas avoir de soldats. Alors, ils auraient pu aller travailler en Allemagne, heureusement, ça ne s'est pas fait, et donc on a inventé une formule nouvelle, chantier de jeunesse.
C'est ça, notamment hein, pour ça.
Et c'est une obligation, hein, j'insiste beaucoup. Ouais. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « j'étais en chantier de jeunesse », il y est pour rien. Hein, je veux dire, le jeune qui avait l'âge d'être l'âge du contingent et qui n'allait pas en chantier de jeunesse, elle est en prison. Hein, c'est pas un choix pétainiste. Je veux dire, Pétain a choisi de faire des chantiers de jeunesse, mais les jeunes de 20 ans n'avaient pas le choix, ils devaient aller en chantier de jeunesse.
C'est d'actualité, hein, parce que je vois des gens autour de moi qui sont super gauches, hein, même extrêmes, et qui sont, enfin, bon, dans leur pensée, dans leur passé, on va dire aussi, et qui sont pour le retour à un truc volontaire comme ça, d'intérêt.
Mais c'est tout le... Voilà, ça, mais ça, c'est...
Mais sauf que c'était pas volontaire.
Oui, là. Non, oui,
c'est
voilà.
C'est volontaire.
Voilà.
Pas, tu vois, à cette idée-là.
Ouais. Mais je... Enfin, là, je...
De don à la société, de contre-don, etc. Mais je trouve ça...
Mais là, tu vois, j'insiste là-dessus parce que souvent, il y a des mauvaises compréhensions par rapport à ça. Hein.
Pour remplacer l'armée qui aurait
voulu... Voilà.
Mais c'est le service civique, les services civiques.
Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, on a appelé à un moment ça service rural. Alors ça, c'était toutes les activités pétainistes vis-à-vis de la jeunesse agricole, etc. Il y a eu des chantiers civiques aussi. Mais là, on disait chantier de jeunesse. On organisait un petit peu parallèle. Mais enfin bon, c'est un... Hein, voilà. Alors, donc, j'expliquais juste que les écoles de formation de cadres formaient les instructeurs qui allaient, voilà, dans les chantiers de jeunesse. Alors, il y a Uriage, et je voulais juste souligner qu'il y a justement un article qui paraîtra dans le bouquin, là, sur les cadres. Il y a eu, sur toute la France, il y avait une quinzaine de centres de formation des cadres, dont, d'ailleurs, Marie Leroy, qui donnera après l'INJEP d'aujourd'hui.
L'INJEP,
voilà. En tout cas, il y en avait plusieurs. Et ils étaient tous dans cet objectif-là, et c'était donc une politique pétainiste tout à fait affirmée, y compris à Uriage. Hein, c'est pour ça que, bon, Uriage, on a beaucoup parlé d'Uriage, on pourrait parler des autres. Uriage était sans doute un de ceux qui était quand même le plus en recherche de qualité par rapport à la formation. Hein. Et effectivement, une partie des stagiaires d'Uriage, en novembre 43, c'est toujours mieux que rien, a choisi la résistance. Le maquis du Vercors. J'insiste pour dire que c'est novembre 43. Et que quelqu'un comme Mounier, j'ai retrouvé ça dans son courrier perso, est allé à Uriage donner des conférences en 1942. Et Mounier n'était pas un résistant en tant que tel. Hein. Il est reparti effaré en disant c'est une pépinière pétainiste, c'est insupportable, je n'irai plus à Uriage. Voilà. Hein, donc je veux dire qu'il faut quand même un petit peu. Voilà. L'histoire, après, un petit peu tassée. Hein. Et c'est vrai qu'il y a Germaine Tillon, elle est rentrée en résistance fin 40, début 41, pour donner une image d'une grande résistante. Je veux dire que il y a des gens qui ne sont jamais rentrés en résistance, donc on est d'accord que c'est déjà bien d'avoir, pour mon point de vue, d'avoir été résistant. Mais je veux dire que la date à laquelle on rentre, quand même, aussi, signifie un certain nombre de choses.
C'est marrant, voilà. Parce qu'il y a plein de choses actuellement. Où on peut être résistant aujourd'hui, parce que au présent, je ne sais pas si on est trop dedans, on ne voit pas les choses, mais les résistances, on peut les créer. Justement, c'est une forme aussi, une éducation populaire aussi, de montrer en quoi on peut être résistant aujourd'hui. C'est pas forcément aller contre les balles, etc. Enfin, la forme de résistance. Et c'est vrai que, quand tu parlais du théâtre, etc., des comédiens sur les routes, etc., ils apprenaient aussi à travers la culture théâtrale, ils donnaient une éducation, donc moi j'utilise exprès les deux termes, une culture théâtrale, en éducation. Donc, il ne s'agit pas de mettre des termes en opposition. Les oppositions, elles ne sont pas de cet ordre-là, c'est culture et sociale. Ça, c'est encore autre chose. Peut-être qu'on ira, si on a le temps, on en reviendra. Mais ce n'est pas entre culture et éducation. Donc, c'est vrai qu'il y a des formes d'expression culturelle qui préparent aussi à ouvrir les esprits et à devenir résistants à certaines choses, à savoir ne pas gober tout déjà, et de savoir comment, individuellement, qui peut devenir très vite collectif, on peut aussi avoir au quotidien des choses sans tout le temps regretter une époque passée en admiration perpétuelle. Donc, comment devenir des hommes remarquables aujourd'hui ? Moi, je crois que les professionnels que nous sommes, et puis les bénévoles aussi qui travaillent dans ce secteur, c'est comment donner les moyens aux gens à devenir remarquables, à savoir avoir l'estime de soi, ne pas toujours dire si j'avais su, j'aurais fait ça. Eux, ils ont eu la chance, ils ont eu une guerre, ils ont pu montrer. Et moi, qu'est-ce que je ferais si je suis face à ça? Mais il n'y a pas, c'est le présent. Comment, je crois que l'éducation qu'on doit nous donner aujourd'hui, c'est de prendre conscience que le présent, il n'y a pas plus beau, quoi. Parce que d'abord, c'est... Voilà, c'est là qu'il faut peut-être former l'esprit à devenir acteur des choses. Et tout à l'heure, tu disais comment on acte. On n'arrive pas à acter. Je veux dire que c'est vrai que ça acte pas d'un point de vue vote, Assemblée nationale, etc., pas forcément. Mais acter au quotidien, c'est le plus difficile. Et donc, je crois qu'on participe à ça. Ça marche pas à tous les coups. Et c'est ça le travail sur le terrain, c'est que ça marche pas à tous les coups. Donc, c'est comment on amène les gens à devenir acteurs de leur propre vie. Voilà. Et ne pas envier des périodes noires, je dirais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, comment ils ont pu, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien. Voilà. Comment justement ne pas faire à ce que le bien commun tombe toujours dans le champ du privé. Et je crois que ça, c'est quelque chose auquel on peut être très attentif. Et c'est pas peut-être dans les grands, grands trucs, c'est au quotidien, de l'interrelationnel de là où on est, où on voit perpétuellement des gens qui, du bien commun, veulent faire un bien privé.
Je saute sur l'occasion que tu donnes là pour citer un exemple. La télévision est un formidable outil, précisément pour faire le travail que tu proposes. Moi, j'ai entendu avec effarement, mais c'était relativement mal compris, une pub qui disait « Devenez propriétaire d'EDF ». C'est extraordinaire, parce que je pensais que je l'étais déjà. C'était l'étape d'avant. C'est remarquable de partir d'un truc que tout le monde a vu, donc c'est vraiment très présent dans les esprits, et dire, mais attends, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai quand même été devenir propriétaire d'EDF. Mais oui, c'est bien, t'achètes des actions. Non, mais j'en ai déjà. Mes impôts, etc., ça fait quoi, ça? Et je pense que c'est tout bête, j'allais dire, c'est tout con, mais c'est aussi le travail quotidien qui peut être fait, c'est-à-dire rester en éveil, c'est aussi un travail, et puis permettre, en sautant sur deux ou trois petites occasions comme ça, de pointer, c'est l'esprit critique, c'est l'esprit d'autonomie, et on retombe en disant ça sur ce qui fait la base des outils de l'éducation populaire, ou des valeurs de l'éducation populaire. J'utilise pas outils.
On voit un très grand retard. On parle toujours comme on considère l'éducation populaire encore aujourd'hui comme un lieu de pallier, à la lourdeur de l'éducation nationale. On y revient. Et l'éducation nationale, c'est pas des questions par rapport au monde, quoi. Il y a un programme alors, pour les gaver, hein, pas ce souci-là. Et je crois qu'il se pose des questions où les mômes, ils sont plus là. Je pense que les mômes aujourd'hui, parce qu'on est aux jeunes là, les mômes aujourd'hui, ils gèrent beaucoup plus d'informations que ne géraient les mômes d'il y a 50 ans. D'un point de vue intellectuel, j'entends. Ils ont des connectiques complètement différentes. Et encore hier soir, j'ai un fils, c'est pas une lumière, c'est pas Einstein, hein, ni Mozart, c'est un monde normal, quoi. Et à 22h30, il passe à la télé Les Veuves de Noirmoutier de Ernest Varda. Bon, bien, hein. Si vous avez l'occasion d'aller vous le voir, de le revoir, regardez-le. Donc c'est un film documentaire quand même. 5 minutes. Les 5 premières images, il a fait qu'il n'a pas été se coucher. Les 5 premières images, qu'est-ce qui se passait? Il a vu que quelqu'un on lui laissait le temps de réfléchir avant de répondre. Elle interview. Hein. Et dès que la personne est émue, puisque c'est des veuves, elle parle de leur. Dès que vont venir les larmes, on change de plan. Elle, tu te rends compte, elle leur laisse le temps de réfléchir pour répondre. Et en plus, elle ne fait pas du spectacle en les montrant en train de pleurer. Voilà. C'est les mondes d'aujourd'hui, ils ne sont pas cons. Moi, je n'ai pas fait spécialement à mon fils éducation à l'image. Donc, ils avaient très bien à voir la merde qu'on leur donne à la télé. Et quand il y a quelque chose de qualité, donc, c'est des mondes super. Ils sont géniaux, nos jeunes, aujourd'hui. Mais il y a un problème qui est ailleurs, quoi. Bon.
Il y a surtout le problème que ce qui est bien passe après 22 heures 30.
Ben, ils sont au lit, voilà. Et moi, je t'assure que bon, j'ai pas été jusqu'à la fin parce que je me suis écroulée. J'ai pas bien. Bon, j'ai pas tenu. Mais je crois que on a une génération de gosses. Tout. Je veux dire, la jeunesse, c'est pas seulement les trois qui crament des voitures. Quoi. On réduit les jeunes à ça. Du coup, il faut mettre de l'argent là-bas sur la jeunesse parce qu'on essaie de résoudre d'autres problèmes, alors que les jeunes, c'est plus que ça, quoi. C'est pas. Bon, il y a d'autres choses, on va pas faire. Bon, les politiques, chômage, machin, etc., etc. Bon, on sait d'où ça vient. Hein, quand on a des mômes qui ont 20 ans, 25 ans, ils ont jamais vu leurs parents se lever le matin pour aller bosser parce qu'ils n'ont jamais de boulot. Bon, ça va, quoi. Bon, donc, nous, notre rôle, c'est ça aussi, c'est de rendre l'estime de soi aux gens, je pense. Et les gens, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas plus cons qu'avant, ils ne sont pas plus bêtes qu'avant. Et voilà, moi je fais confiance à la jeunesse et aux adultes pour discuter. De proche en proche. Et c'est ça aussi, l'éducation populaire, c'est comment on travaille de proche en proche, je pense. Et ne pas se masquer éternellement derrière les outils, derrière des outils qui sont certainement nécessaires, mais qui ne sont pas des méthodes, forcément. Donc, on est dans des espèces de confusion. Il faut remettre les choses à chaque fois. C'est ça aussi l'éducation. C'est à chaque fois re-questionner l'essence des choses, à chaque fois recommencer. C'est jamais fini, quoi. Mm-hmm. Voilà. Pas pour moi. J'ai mon bafin. Hein. L'équivalence.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oh merde, tu ne comprends pas. Non, enfin voilà. Alors j'ai coupé un petit peu,
Je ne sais pas, mais le temps, non, mais peut-être qu'on va. C'est oui, tout, hein, on n'ira pas au bout, c'est pas grave. C'est pas grave.
On peut reprendre la troisième séance, on peut reprendre, revenir, je ne sais pas, si c'est nécessaire, vous allez
Sur les deux dernières phases, oui, sûrement.
Oui, c'est lié. Peut-être sur le. Moi, disons que ce que j'aurais aimé, mais on va peut-être le jouer pour une prochaine fois. Ben, vu le comme vous voulez, hein, moi je suis disponible. C'est peut-être reprendre un tout petit peu à la libération là, parce que là quand même il se passe des choses assez importantes. Hein. Voilà.
De sauter complètement.
Oui, ça risque d'être ennuyeux.
Hein, voilà.
Pour expliquer maintenant l'intervention d'État.
Voilà.
Hein. Je pense que sur la question de l'intervention d'État, donc sur la première partie, on a pas substitué pour les adultes. La notion
de l'éducation
populaire à celle de la formation permanente.
Voilà, et ça, on peut aussi expliquer ça. D'autant que, moi, je peux te dire une toute petite hypothèse là-dessus, on l'avait un petit peu esquissé le jour, au moment de la loi de 1971, l'éducation populaire, ces milieux-là, n'est pas très présente. C'est-à-dire que ceux qui ont fait voter cette loi, c'est des gens qui connaissaient l'éducation populaire. Hein, je pense notamment à Bélorget, par exemple, ou à Delors. Hein. Mais les associations d'éducation populaire ne sont pas en phase là-dessus et se font assez vite mettre de côté pour plutôt que ce soit plutôt des organismes de formation qui vont aller dans ce marché, en fait, dans ce marché de la formation. Voilà. Et là, il y a comme une discontinuité, alors que l'éducation populaire aurait dû être de premier plan sur la loi de 71, elle n'y est pas. Et moi, c'est une chose que on a commencé à travailler, on avait fait là une journée ensemble là-dessus, et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, on n'a pas d'ailleurs toutes les explications.
Ça ne s'est pas interrompu après, parce que dans la dernière période, enfin dans l'avant-dernière période, on va dire, mais le train de mesures sociales de mars 82... qui a été ressenti comme une possibilité de ballon d'oxygène pour les associations, qui était un peu exsangue. Et qui, je veux parler des stages d'insertion. Donc ça c'est devenu, il y a eu vraiment bon, un gros effort financier, et il y a eu une manne financière qui est arrivée. Et les associations se sont engouffrées dans cette affaire-là, parce que si on mettait en place un projet d'insertion, eh bien il y avait du fric. Avec le système classique de la formation professionnelle, c'est-à-dire le CNASEAL, et tout, etc. Bon. Et les associations qui étaient relativement exsangues se sont engouffrées dans ce schéma, sont devenues concurrentes entre elles, et ça a été tragique. Alors, ce qui partait finalement d'un bon sentiment chez Pierre Mauroy, Premier ministre, en lançant cette affaire, s'est avéré 4-5 ans plus tard comme la pire des choses. Parce que il n'y a rien de pire que sur un terrain qui est relativement fragile, en tout cas fragilisé, par les conséquences d'ailleurs de l'ère Giscard, dont on pourra revenir un petit peu, avec un gros concept qui était la rationalisation des choix budgétaires, après Giscard d'Estaing. On a rendu complètement exsangue une très, très grande partie du secteur associatif qui, dans les années 80, s'est retrouvé là, relativement exsangue. Et donc, le fric important des stages d'insertion a complètement bouleversé le paysage en rendant les associations concurrentes entre elles. C'était, enfin, vous avez relativement bien connu, cette, j'imagine, cette phase-là.
Et moi, je fais un bond, parce que bon, c'est meilleur de conclure par rapport à aujourd'hui. Ce que vous disiez, c'est aujourd'hui, j'ai encore entendu à la radio hier ou avant-hier, la formation tout au long de la vie. Alors maintenant, ça devient un concept, ça. Mais qui était le concept d'éducation populaire dès le départ, vous l'avez bien compris. Donc là, qu'est-ce qui est... Voilà. Hein, qu'est-ce qui est derrière ça? Pas l'éducation populaire tellement non plus. Hein? Non, mais c'est quand même étonnant tout ce que...
Ça marche. Hein?
Ça marche, c'est l'employabilité, le fait qu'on reste adapté à son poste de travail.
C'est autre chose. En fait. C'est-à-dire, là aussi, quand on dit ce mot-là, on ne pense pas tous la même chose.
Avec une notion qui a été extrêmement pernicieuse, mais qui a fait pendant au moins 15 ans les gros titres, les gros sujets d'embauche, de stage, y compris à l'international, moi j'en ai fait comme ça, c'est l'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus la formation autrement que comme celle qui prépare à l'emploi.
C'était déjà une déviation de la loi 71, je dirais, hein, qui était en
gestation. Il y avait quand même, dans la loi 71,
oui, il y avait les deux notions.
Il y avait la formation directement.
Hein, voilà. Si on forme l'ouvrier travailleur pour qu'il soit dans l'entreprise, soit à côté.
Et le développement personnel. Ouais, il y avait quand même les deux directions. Hein.
Mais les syndicats ont souvent défendu la notion, justement, de dire c'est pour qu'ils choisissent à faire d'autres choses. Hein. Ça dépend des syndicats.
Oui, c'est ça que tu disais. Oui, c'est ça. Oui, ça dépend des syndicats.
Bon, on conclut là-dessus.